Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Maintenant,
c'est maintenant.
Ah, super. J'adore ce générique parce que je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il se termine. Bonjour, bienvenue sur Commute, le Commute du mois d'avril-mai, du mois de mai 2023. Vous me reconnaissez, je suis Ken Bogart. J'ai encore une fois mué et je suis devenu un bel homme, bien viril et bien si dans sa masculinité. Et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette émission. Je suis comme d'habitude accompagné de deux formidables chroniqueureuses. On va commencer par toi, Chloé. Comment vas-tu, Chloé ?
Ça va, et toi, Ken ?
Ben moi, ça va super bien.
Tu arrives à le décalage horaire avec le Japon, se passe bien ?
Oui, oui, oui. Bah, c'est un peu compliqué, surtout pour une personne de petite taille comme moi, avec une constitution un peu fragile. Mais j'essaie de travailler dessus et de devenir beau comme Daz, par exemple. J'ai pris au hasard dans l'équipe une personne.
Ça fait plusieurs fois que tu fais l'intro comme ça.
Oui, je sais. Je sais. Non, évidemment, Ken ne peut pas assister et participer à cette émission, puisqu'effectivement, comme tous les weeb français, il est parti au Japon pour voir les pétales de cerisier.
Non, il est allé acheter sa 53e figurine de Mario.
Bien sûr, Ken étant un weeb.
Et tu remarqueras qu'il cuisine japonais tout le temps et il continue à manger la même chose quand il est en vacances.
Ouais, non, mais enfin bon, c'est.
Bah, aucune originalité. C'est bizarre qu'il mange un bœuf bourguignon au Japon, cela.
Ça aurait été génial.
Ouais.
T'arrives au Japon, premier truc, tu prends une omelette.
Il y a des omelettes.
Non, mais françaises.
Ah oui, d'accord, pardon. et du coup, ça me permet de. Donc, toi, Chloé, ça va. L'actualité, tout ça, la vie se passe bien. J'ai vu que tu étais de droite désormais.
Ah!
Enfin, encore plus que d'habitude, puisque tu
as. Oui, parce que j'ai toujours été.
Oui, t'as toujours été propriétaire. Voilà, donc voilà.
Mais oui,
ah
ça.
Oui, c'est vrai.
Eh oui, donc félicitations.
Mais propriétaire dans une banlieue
oui,
sociale.
En banlieue, donc je suis de gauche.
Donc de gauche.
Oui, parce qu'effectivement, en plus, elle est désormais avec le 93
ouais
sur sa plaque d'immatriculation. ce qui tombe bien, puisqu'on va dire qu'il ne faut plus utiliser de voiture. Comment vas-tu, toi, Victor ?
Ben, ça va très bien.
Oui, toi aussi, propriétaire.
Pas du tout. On passe, mais on regarde dans le 9-4. Pour être.
Voilà.
Ah oui, donc là, de droite, du coup.
Ah,
non,
grave.
Pas du tout.
Ah, si. Moi,
je regarde sur scène, excusez-moi.
Non, mais je regarde Opéra sur Marne, monsieur. Donc,
excusez-moi.
Bah,
voilà.
Là, d'accord.
Mais je regarde Opéra sur Marne, donc là, full
ah, oui,
de droite.
Ah oui, full droite, ok, d'accord. Parce que Maison Alfort, ça côtoie quand même Alfortville pour rester un petit peu dans le social et dans la misère. Bah, ça côtoie aussi Charenton. Mais ça,
c'est un peu comme le 3e arrondissement, quoi.
Oui,
on peut dire ça, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas de quoi tu parles.
Non, mais c'est surtout qu'on ne s'adresse pas qu'aux Parisiens.
Oui, de toute façon, vous le savez, Commute, c'est une émission qui parle de mobilité, mais qui parle
avant ça
tout.
Quand même, je tiens à vous féliciter pour l'émission où je n'étais pas là parce que j'étais en train de voir des trains usines qui étaient très bien. Oui,
coupé,
j'étais complètement coupé, mais je le dis avant qu'on commence parce que cette émission sur le handicap, c'était une franche réussite. Je sais pas si tu l'écoutais, c'était vachement
entier. Parce que c'est beaucoup trop long.
C'était vachement long. Pardon, je te rends la parole.
Non, on est dans le commute nouveau, on est en dessous d'une heure et demie.
Non, c'est vrai.
Donc,
c'est vrai, mais ça reste encore long. Là, on va faire une émission en 27 minutes, montre en main, c'est-à-dire une intro de Victor. donc, vous le savez, Commute, c'est l'émission qui parle mobilité, mais qui parle avant tout de la vie. De la vie en société, de la vie avec ses prochains et son prochain et sa prochaine, car nous sommes en plus inclusifs, en plus d'être décarbonés. Et nous allons parler ce mois-ci d'urbanisme et donc de mobilité dans l'espace urbain, dans la ville. Donc pour tous les gens qui habitent des villages, eh ben, tant pis pour vous. Voilà, venez pas nous emmerder en disant oui, gna gna gna, c'est encore très centré, grande ville. Bah oui, les gars, on parle d'urbanisme, donc forcément, on peut pas parler de votre petit village perdu dans la garrigue.
Moi, je vais faire un petit détour par les campagnes entre les villes.
Très bien. Donc, Victor.
Commence déjà à changer de sujet.
Non, ce sera pour.
Victor, en tout cas, a chargé sa super, puisque comme il l'a mentionné, il n'était pas là sur la dernière émission, donc il a des choses à dire.
Ouais.
Et on va commencer avec toi, du coup.
Ouais, parce que cette idée d'émission donc, a été proposée par Chloé, et j'ai un peu rattaché l'idée de l'urbanisme à une question qu'on nous avait posée dans la FAQ. De Joseph Daluin,
cher Joseph, qu'on salue,
qui nous pose la question pourquoi on a encore du mal à penser par-delà l'automobile. Et vous verrez, c'est un lien avec la ville. Ça m'a renvoyé un peu à mes études d'urbanisme. Parce
flex.
Que,
ouais, ça flex un peu les études.
Un peu. Mmh. Parce que on nous a déjà fait la réflexion sur ce podcast que nous, on était très parisiano-centrés, hyper mobile, locavore, CSP+, et tout. Et
c'est
que
pour ça que je viens, hein, parce que je suis la caution banlieue.
Voilà, et que nous, on est bien mignons avec nos vélos, mais qu'on a du mal à penser aux gens qui sont prisonniers de leur voiture. Mmh. Et tu referas un espèce de petit historique, mais moi je voulais remettre un peu l'église au milieu du village.
Urbanisme, église, village.
Voilà. Mmh. La voiture, c'est un phénomène assez récent quand même sur l'échelle de l'humanité. On parle quand
de
même d'une. Bah, justement, j'ai une phrase qui dit on ne peut pas dire de tout temps les hommes partaient au travail en Clio diesel.
Non.
C'est compliqué.
Même en Clio RXE, hein, Clio essence respectable.
Donc, si on prend deux minutes pour faire un pas de côté, la dépendance à la voiture, ça date globalement de 50 ans, à peu près.
C'est vrai.
C'est un phénomène d'après-guerre, mais qui s'est vraiment...
100 ans, ouais.
50 ans, c'est un peu juste. 50 ans, mon ami, bah, 1970. Hein, donc,
1920, la voiture était très très peu démocratisée.
Non, mais 1950. En gros, c'est le Fordisme, c'est le Taylorisme.
Alors, 1950, ça commençait à émerger aux États-Unis.
L'après-guerre.
Mais quand tu... L'après-guerre, nous, c'est l'avènement de la voiture de masse. C'est plutôt années 60-70, parce que tu commences à voir les premières vraies voitures, enfin, deux chevaux, c'était un truc très...
Mais ça, c'est années 60, c'est fou l'année 60.
Oui, mais deux chevaux, c'était très agricole. R5, c'est plus fin 60, quand même.
Oui. Mais enfin, entre-temps, il y a, entre la 2 chevaux et la R5, il y a eu la Mi 6, la Mi 8, la Mi 2, la Mi, ouais. La Mi Don, là, tu vois. Donc oui, en gros, c'est depuis... pour moi, c'est le baby-boom, c'est concomitant au baby-boom, c'est l'après-guerre, c'est justement... les congés payés, tu vois, tout le monde traverse la France pour aller en vacances, etc. Donc c'est full 30 glorieuses, quoi.
Ouais. Et c'est à ce moment-là que Henri Lefebvre, sociologue, philosophe,
on salue également,
voilà, salut Henri.
Qui a publié son livre La production de l'espace en 73, qui nous explique en gros que la fabrique de la ville, de l'espace et globalement du territoire, ça s'accompagne de plein de choses, notamment de son imaginaire. Donc quand tu imagines la ville et que tu te représentes son espace, t'as certains trucs qui viennent de façon assez inconsciente, tu vois. Quand tu t'imagines la ville dans les années 60 à Paris, bah, visible, enfin, t'as par exemple l'image des 4L de la place de l'Étoile avec plein de voitures, et en fait c'est
place de la Concorde, ouais. Place, c'était un parking.
Voilà, tu t'as un truc qui fait que ça s'impose à toi, en fait, cette pensée de l'espace. Et en fait, avec ces pensées, t'as aussi des pratiques et des comportements qui sont guidés par ces représentations et les usages qu'on en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville, quand on s'y déplace, on se déplace dans la rue, le fait de marcher sur un trottoir, de traverser avec un feu, en fait, il y a tout un tas de règles qui sont intégrées et qui font en sorte que déplacement dans l'espace...
Tu questionnes pas sur
non,
pourquoi
en fait,
tu...
T'as une structure qui fait en sorte que tu te guides dans l'espace selon une place centrale qui est la voiture aujourd'hui, puisque on en a parlé suffisamment, mais 80 à 90% de l'espace urbain est réservé.
Vrai soit... pourcentage, ça,
ouais.
Ou sorti
non, vraiment.
Du
on avait fait une émission dessus, en gros.
Okay. Parce que ça me paraît beaucoup, 80%.
Bah, mesure de façade à façade, l'espace qui réserve à la voiture entre
la chaussée,
les places de
stationnement,
tout le reste, en fait. Là, avec
alors,
le canal.
Là, il y a le canal, voilà. Hein, donc, ouais.
Mais si tu prends si tu tires
une rue classique, un boulevard classique,
voilà,
ouais.
T'as assez peu de trottoirs, des places de stationnement, la chaussée pour circuler, et plus les surfaces de parking et tout, on arrive très très vite à une place
très
prépondérante. Et en fait, ça, l'école de pensée de l'époque, qui s'est beaucoup appuyée sur Bourdieu, c'est qu'en fait, la structure détermine
l'utilisation
et la donc comment tu peux t'imaginer te projeter dans l'espace. Donc en gros, ça guide vraiment ton action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à réfléchir sans la voiture au cœur de nos villes et que ça demande un effort. Pour nous, déjà, de changer nos comportements, mais aussi, si on est hors de la ville, par exemple, là, on se retrouve enfin, toi, tu disais en introduction, si t'es dans le Lot, penser ta vie sans voiture, c'est aujourd'hui, compliqué. C'est quasiment impossible.
Je vais même te dire, j'étais dans le Lot, dans une charmante bourgade qui s'appelle Lozès. Le village d'à côté, Saint-Cernin, est à 5 km. En voiture, tu y es en 8 minutes. À pied, ça te prend 40 minutes. Voilà. Donc rien que ça, déjà, ça te...
Et il n'y a pas de piste cyclable, ni de trottoir, j'imagine.
Absolument pas de piste cyclable, et tu risques de te faire faucher par une voiture si tu marches le long de la route, en fait, puisqu'il n'y a pas de dégagement.
Voilà. Mais du coup, l'expérience que tu as de l'espace est absolument déterminée par le fait d'avoir une voiture ou pas.
Oui.
Et du coup, tu ne peux pas penser outre, parce que tu te dis, bah, en fait, soit je reste chez moi, et mon expérience de la vie est quand même assez limitée, soit... Je peux me libérer vis-à-vis de ça.
Mais c'est pour ça que là, c'est intéressant d'aborder la question de l'urbanisme, puisque techniquement, sur une zone très peu étendue, est-ce que tu as vraiment besoin de ta voiture?
Bah, c'est
là
ça.
Où tu as tout autour de toi, normalement, bah, à portée de pied. Quoi.
Ça demande de... Parce que du coup, le développement de la voiture, c'était aussi pour permettre d'accéder au rêve américain-français, c'est-à-dire être propriétaire de son pavillon, en périphérie des villes, puisque c'est comme ça aussi que on sait que les gens s'installent en périphérie parce que les loyers sont beaucoup plus modérés, que l'accès à la propriété est plus aisé en banlieue, et que du coup en fait on a réussi à changer la façon de vivre, c'est-à-dire qu'effectivement les commerces de quartier ont disparu au profit des hypermarchés, et en fait c'est un truc qui s'auto-alimente. Le souci, de mon point de vue à moi, parce que j'ai fait sociologie pendant au moins 3 secondes.
sur Twitter,
bien sûr, principalement. Mais un jour, ça sera reconnu, ça, comme diplôme d'État. C'est le fait que la voiture a été considérée comme un progrès technologique et social.
Tout à fait.
Et que toute tentative de vouloir penser sans voiture est vécu par les gens comme une régression, comme si le progrès était quelque chose de linéaire, alors qu'on sait que en fait ça fait des vagues. Effectivement, comme disait Henri Lefebvre,
le bon Henri,
c'est pas lui qui disait ça, mais j'avais envie de dire ça.
Je rebondis quand même sur la question de la voiture qui structure la ville. Ce qui est intéressant dans l'histoire de l'urbanisme et de la construction des villes à travers le monde, c'est que elles existaient avant la voiture.
Ouais, tout à fait.
Il y en a qui existent après, mais c'est ça que moi je voulais un petit peu essayer de comprendre, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une évolution aussi de fait des villes à cause de la voiture, parce que comme vous le disiez, c'est un élément moderne, tout le monde voulait en avoir et tout, mais comment ça se passe du coup dans l'urbanisme et comment ça se passe pour changer ça aussi après ?
Eh bien...
Et surtout, avant les voitures, il y avait quoi en ville pour se balader ?
Les calèches. Parce qu'en fait, à Paris... On peut remonter à ce bon baron Haussmann, parce que c'est un peu lui qui a mis en place les grands axes. Tout était un peu comme le Marais, là, où si tu vas en voiture dans le Marais, parfois t'as l'impression que les rétros des deux côtés touchent les murs.
Mais du coup, c'est pratique, parce que tu vas lentement.
On est revenu à un Marais qui n'est pas circulable en voiture, et en fait on en revient à l'état entre guillemets normal.
C'est pas normal circulable à vélo et MDR. Le Marais le dimanche, bon courage. Hein, si vous
attention, on passe sur le parisianisme.
Ouais. Ah pardon.
Mais ça peut être. J'ai essayé de décentrer ma réflexion. Moi, je vous en parlerai peu plus tard en me basant sur un fantastique ouvrage que j'ai avec moi et que je vous invite chaudement à aller consulter.
J'avais mal lu le titre. D'accord. Je croyais que c'était Le Monde des cartes postales, mais
non. Ça s'appelle Post Car World, donc le monde après la voiture, futur de la ville territoire. C'est de Elena Cogato Lanza, Farzane Barami, Simon Berger et Luca Pataroni. Je vous m'excuse si j'ai écorché vos noms. C'est publié chez Métis Press. C'est 32 €. C'est un très bel ouvrage. Et je vais essayer d'égrener un peu les réflexions que j'ai lues dans ce bouquin pendant que Chloé va dérouler le chapitre de l'émission.
Toi, tu décentralises, moi je structure.
Est-ce qu'on annonce officiellement le premier chapitre de cette discussion ?
Oui.
Tu peux annoncer le premier chapitre.
Alors attention, petit jingle pour le plaisir. À toi, Chloé.
Bah, déjà, je vais vous introduire ma façon de travailler.
Alors.
Qui n'est vraiment pas un exemple. J'ai donné l'idée de cette thématique il y a deux jours sur notre Discord. Car je m'y prends toujours à peu près 48 heures avant. Sauf qu'il se trouve que j'ai découvert que j'avais une vie en dehors de la préparation de commute. Et que c'est bien dommage parce qu'en fait, l'urbanisme et la mobilité, c'est l'objet de plusieurs livres, hein, comme celui dont tu viens de parler. Donc c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de faire, voilà, de descendre tous les livres. Donc. Je pense que cet épisode en une heure et demie va certainement ne faire qu'effleurer la question avec certainement beaucoup d'approximations, mais moi l'idée de cette
une envie de bien faire.
Une envie de bien faire et surtout une envie de vous donner envie également d'aborder ce thème parce que je trouve que ça hyper intéressant. Parce que de structurer là où tu vis pour beaucoup d'humains sur Terre, pardon pour les gens à la campagne, mais qui sont en ville de temps en temps en plus, c'est hyper intéressant de comprendre comment ça s'est créé. C'est hyper intéressant si vous jouez aux Sims. On crée des villes dans les Sims ? J'ai jamais joué aux Sims.
Non, mais on crée des villes dans SimCity, par exemple.
SimCity, exactement. Et de comprendre un petit peu les enjeux de tout ça et qu'effectivement, il va falloir réfléchir un petit peu out of the box de la voiture.
J'élargis parce qu'on parle d'urbanisme, mais globalement, tu peux élargir en parlant d'aménagement du territoire. Oui. Et en fait, les principes que tu mets en place aux villes, tu peux également gérer les transports, l'aménagement et les règles de construction. C'est quelque chose qui s'applique aussi à la campagne.
Mais ce qui est très intéressant dans le parallèle que tu as fait avec le jeu vidéo, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les city builders, dans leur immense majorité, donc je parle de SimCity, de City Skylines, de Cities XXL, etc., sont drivés par le réseau routier. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut faire des routes. Alors, voiture. Mm-hmm. Et ça,
City Skyline, tu peux jouer en mode full piéton.
Ah.
Sauf qu'en fait,
c'est un mode.
De base, tu peux faire un jeu. Alors, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Le seul truc, c'est que, en fait, pour que le jeu fonctionne et pour que tu ailles, enfin, pour que tu avances, il faut que tu respectes un peu les principes d'urbanisation américains. Avec des zones commerciales.
Zones commerciales, zones d'habitation, zones industrielles.
But we digress.
On ne va faire que digresser.
Non, mais voilà, c'est intéressant de noter que dans le jeu vidéo, en tout cas, l'élément de base pour constituer une ville, c'est la grille routière.
Exactement.
Quand même,
c'est ça.
Et en plus, j'ai du coup trempé le doigt de pied dans l'immensité que l'urbanisme et la politique, puisque c'est forcément lié.
Oui.
Les décisions d'urbanisme sont liées à ce que tu veux.
Absolument liées. Il suffit d'être allé
à la population. Quoi.
Suffit d'être allé une fois dans les Vosges, d'avoir emprunté cette formidable autoroute ou nationale, je sais pas, immaculée, absolument jamais empruntée, mais complètement flambant neuve, qui a été demandée expressément par Philippe Seguin à l'époque où il était député de la région et qu'il avait besoin d'aller vite à Paris, pour se rendre compte qu'effectivement urbanisme et politique, ça va ensemble.
C'est un peu lié.
Oui, complètement.
Oui, et puis là on le voit avec la transition écologique où il y a un vrai questionnement sur comment faire en sorte que tu vives mieux. Et le problème, c'est que la mobilité, notamment le tout voiture, nique un peu tout. Ça pollue, la pollution sonore, ça abîme les gens, en fait, de plein de manières différentes.
Et ça coûte un fric.
Ça coûte très cher. Et malheureusement, on en parlera quand on en viendra à mon chapitre le tout voiture. Mm-hmm. C'est que
chapitre
souvent,
combien, ça, pardon sur le...
17. Okay. Ça, souvent, les gens qui décident pour nous sont souvent ceux qui ont des voitures et qui ont un intérêt à avoir du tout voiture.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment. Bien sûr.
Sauf Anne Hidalgo, évidemment.
Bien sûr.
Merci, Anne. On te salue.
Hidalgo, démission. Non, pas démission, pardon.
Canonisation. Donc voilà, ça c'était ma petite intro. L'histoire de l'urbanisme. Alors, je ne vais pas tout vous le faire, surtout que j'ai commencé juste à effleurer le lien urbanisme et mobilité. L'urbanisme en soi, ça remonte à des tonnes d'années. Hein. On a des mentions de l'urbanisme dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ dans le livre de Gilgamesh, des mentions écrites. De notion de réfléchir à l'urbanisme.
C'est-à-dire, il disait quoi ? Il disait qu'il faut mettre la boulangerie loin des termes.
Les plans même, des plans. Alors à l'époque, c'était des plans très perpendiculaires. Je croyais justement qu'on était beaucoup plus sur un truc centré autour
organique,
du village.
Ouais.
Et en fait, ça arrive qu'au Moyen-Âge. Et j'étais très étonnée d'ailleurs, parce que je trouve que c'est beaucoup plus logique. Au Moyen-Âge, c'est arrivé comme ça, parce qu'on mettait au centre de... On développait la ville autour d'un point élevé pour pouvoir se défendre. Et donc, on était plus sur les lignes
concentriques.
Un truc concentrique comme quand on tranche un arbre, quoi, plutôt que des plans très en damier. Quoi. Mmh.
Ça avait un avantage stratégique aussi, le fait de ne pas avoir un plan en damier, parce que si tu prends un plan romain avec le cardo et le decumanus, donc qui sont la parallèle et la verticale, c'est les deux trucs de base. peu importe dans quelle ville tu vas, elle sera organisée de la même façon. Donc en fait, tu n'as plus d'avantage tactique. Alors que si tu as une ville qui est très sinueuse avec des zigouilles et tout, si l'envahisseur arrive chez toi, tu as beaucoup plus de, c'est beaucoup plus aisé de défendre là où lui n'a pas l'avantage tactique. Donc en fait, il y avait vraiment une volonté défensive dans l'urbanisme, il y avait une fonction stratégique.
C'est génial.
Dans l'agencement du bâti.
D'accord.
Et puis en plus, j'ai appris que forcément, quand tu as un peu moins de tension politique aussi, tu organises ta ville différemment parce que tu es plus concentré sur les échanges, le commerce, les trucs comme ça, la vie des gens en fait. Mm-hmm. Et c'est moins orienté comment se battre le plus facilement. Voilà, j'ai fini.
C'était l'histoire de la ville en 45 secondes.
Non, pas du tout.
On avait dit qu'on ferait vite.
Voilà, je fais vite. Et en fait, non, je reprends un petit peu ce que tu disais, Victor, c'est qu'il y a une évolution naturelle de la ville, bien sûr, avec le développement des industries. Et le problème, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est dès le moment où il commence à y avoir beaucoup de monde, c'est là où ça foire, en fait, l'urbanisme. Ouais. Tu peux avoir plein de bonnes idées, mais dès le moment où tu dépasses un certain nombre de personnes, bah, ça crée des problèmes, comme l'étalement en banlieue, avec des ségrégations sociales ou des choses comme ça. Aux États-Unis, je crois, au début du 20e, il y a eu l'idée des cités-jardins.
Oui.
Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
Tout à fait.
Pas du tout.
Alors, tu expliqueras peut-être mieux que moi.
Non, mais vas-y, je te laisse développer et je corrigerai si jamais...
Alors, attendez, j'ai même des quotes.
Vas-y.
Donc, c'était un développement de l'unité de quartier au début des années 1900, c'est ça. Donc, c'est justement au début où les voitures ont été introduites, les gens se sont dit « Ah, ça serait bien quand même qu'il n'y ait pas trop de voitures exactement là où on vit ». Donc l'idée, c'était de...
Il y avait déjà cette volonté.
D'accord. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir des pôles, un pôle habitation, un pôle commerce, avec au centre des pôles habitation, qu'il n'y ait pas de rue véhiculée.
Mais tu voyais la structure de comment tu t'en expresses, parce que à partir du moment où tu crées des pôles d'habitation, en fait, tu sépares les usages.
Tout à fait.
Et en fait, la séparation des usages, en fait, ça détermine le fait que tu ne peux pas... Nécessairement, tu ne vas pas travailler à l'endroit où tu vis.
Oui. La preuve avec l'âme, puisque il est chez lui et là il travaille et il n'est pas là. Voilà.
Mais en tout cas, ça mettait au centre le jardin, avec les maisons qui faisaient une petite barrière, ce qui fait que les enfants pouvaient jouer tranquillement et tout. T'avais quand même des petits commerces au centre.
Ça, c'est américain, ça ?
Ouais.
Ça, en fait,
mais genre, quel bled ?
C'est lié, en fait, ça a été dévié des principes.
C'est d'abord à Radburn dans le New Jersey.
Ça a été dévié des principes hygiénistes, en fait, qui ont aussi guidé l'action d'Haussmann, puisqu'en fait, tu parlais des problèmes quand il y avait beaucoup de monde. Il y a des grands maux qui sont associés avec les villes, c'est les maladies et l'incendie.
Bien sûr.
L'incendie, je ne sais pas si on pourra en parler plus tard, mais les maladies, par exemple, il y a eu des grandes épidémies à l'ère industrielle.
La peste,
c'était vraiment
moyen. En 1600 et quelques.
T'avais tuberculose, par exemple, des trucs vraiment pas cool.
Bien sûr.
Et en fait, il y a eu une réflexion qui a été menée par les dirigeants et par les patrons, parce qu'en fait, ils ont perdu beaucoup d'employés, pour faire en sorte d'avoir des principes qui étaient faire en sorte d'avoir des forces vives qui sont en bonne santé, et aussi avoir un certain bonheur urbain, parce que la ville, c'est le lieu de la contestation sociale, parce que là où avant, t'avais une hiérarchisation verticale de la société avec les châtelains et le peuple qui n'était pas au même endroit, en fait, donc tu ne voyais pas les richesses. À partir du moment où tu arrives en ville et où les gens travaillent et vivent à des endroits à distance à pied, enfin, quand tu parles de Londres au 19e siècle, tu as l'extrême pauvreté des ouvriers d'usine qui côtoient l'abondance face des patrons. Ouais. Et là, quand tu vois l'opulence alors que toi tu vis dans la misère et dans le caniveau et que tu crèves de ta maladie, ça, il y a quelques trucs que, voilà. Et les cités-jardins, ça a été une des façons d'y répondre parce qu'en fait, tu crées une unité de bonheur aussi.
Il y a plein d'exemples de cités-jardins en banlieue parisienne. Il y en a qui ont mieux marché que d'autres. Et ben, notamment au Lila. La campagne à Paris, c'est un exemple de cité-jardin. Si vous connaissez le 20e arrondissement, c'est très sympa. Il y en a plein. Et après, en fait, ce qui a un peu dégénéré en France, c'est qu'ils se sont dit « Ok, c'est bien les cités-jardins, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, on va faire des immeubles en hauteur. » Et c'est là où ça a un peu vrillé parce qu'il n'y avait plus trop l'intérêt des petits pavillons, de la nature et tout. Ce que je voulais dire sur les cités-jardins, c'est que le mec qui a créé ça, au départ, il s'était dit « Ça marche jusqu'à 30 000 personnes. » Après, tu crées d'autres cités-jardins et tu les relies entre elles par des voitures. Et effectivement, il y a eu une évolution sur ces cités-jardins quand ils se sont rendus compte qu'en fait, avec l'arrivée des voitures, il y avait vachement plus de gens qui mouraient. c'est un peu chiant. Mmh. Donc il fallait un peu protéger les gens de ça, donc il fallait un petit peu séparer les voies des piétons.
Donc, voilà. Donc ça s'est fait quand même de manière un peu empirique, le truc, oui. C'est qu'il n'y avait pas de vrai plan autre que de dire on organise la façon de vivre des gens d'une certaine façon. Par contre, à partir du moment où le déplacement a commencé à prendre une place prépondérante, notamment pour aller bosser, c'est là qu'on s'est rendu compte que du coup, il y avait des conséquences potentielles sur la vie des gens.
Tout à fait.
Et que du coup, on a pris les orientations qu'il fallait pour les protéger.
On a les exemples plus récents avec les startups, c'est qu'on a légiféré ex post, donc une fois qu'on a été mis sur le fait, et pour l'urbanisme et pour les réglementations sur les voitures, ça a été fait parce qu'on a constaté, au début, ils ont laissé faire, puis on s'est rendu compte que les gens roulaient n'importe comment, qu'il y avait des morts, et du coup, il y a eu un besoin législatif de contrôler, quoi.
Ouais.
Et avant la voiture, du coup, il y avait quoi dans les villes ?
Il y avait des calèches, des diligences.
Pied, hein, beaucoup aussi. Ouais. Et j'ai des petites anecdotes, des petits quiz.
Mmh. Vas-y.
Non, pas vraiment. J'ai une anecdote sur le déplacement à cheval. J'ai lu plein de trucs sur le déplacement à cheval.
Mmh. À cheval dessus ou à cheval tiré
les deux,
par ?
Mais beaucoup tiré par.
Ouais.
Et en fait, ils préconisent une pause toutes les deux heures pour le cheval. Comme sur l'autoroute actuellement.
Toutes
pour
les deux
nous.
Heures, là,
pour je trouve ça assez drôle.
Bah, tu l'amènes à l'autogrill.
On est devenus les chevaux de...
Bah oui, bien sûr. Bah oui, mais le cheval, je rappelle, c'est reste génial. L'unité de puissance des véhicules. Oui, hein, donc,
J'en avais parlé
Et l'autre truc, c'est... vous savez pourquoi les trottoirs ont été inventés ? Parce que je me dis, s'il n'y a pas de voiture et pas besoin de créer des trottoirs, tu fais... Une chaussée géante.
Bah si, parce qu'en fait, il n'y a pas de voiture, mais il y avait quand même des carrioles, quoi. Donc,
oui, mais genre même avant le développement de la roue. Bon, le trottoir est arrivé
après. C'était pour
après,
le caniveau c'était pour...
Mais cela dit, avant le développement de la roue, il y avait quand même des déplacements avec... pas de roue, quoi. C'était plus compliqué.
Oui.
Non, bah, parce que...
Non, c'était pour pas se saloper les pieds dans la boue. Et pour que les riches, ils aient des collants blancs. Que tu puisses aller en ville.
Tenais haut le pavé. Tu étais sur le haut de la route.
Et rester clean du pavé, et pas avoir du caca sur tes chaussettes, quoi.
Bien sûr, oui, parce qu'il faut rappeler que les routes n'avaient pas besoin de goudron.
Non.
Non, c'est beaucoup de pavés.
C'était des pavés et c'était beaucoup de gadou, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Bien sûr. Donc ça, alors moi je suis désolé, mais quand même, et là je suis obligé d'être la caution de droite de cette émission, la voiture, ça nous a quand même rendu tous plus propres, oui. Non ? On est moins crottés en traversant une route goudronnée.
Oui, et puis surtout, même dans la question du Covid dernièrement qui nous a touchés, c'est que la voiture reste un transport où tu es safe, où tu partages pas ça avec 1000 personnes, où tu es à l'abri de la pluie.
Je sais pas si l'incident, oui.
Safe d'un point de vue infection, oui, bien sûr.
Et puis, parce que tu vois, si tu dois voyager de nuit, t'es dans ta voiture tranquille. Ouais. Si tu dois voyager sous la pluie, t'es dans ta voiture tranquille. Alors. Donc ça reste un truc où c'est dur de se défaire de la voiture, effectivement.
J'ai extrait une citation du bouquin.
Henri Lefebvre ?
Non, de Postcard World, qui parlait justement des avantages de la voiture. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de déplacement et tout. On peut penser que la voiture, on l'utilise pour sa vitesse. C'est-à-dire que tu peux couvrir plus d'espace en moins de temps.
Ce qui reste vrai quand même. Hein.
Ouais, sauf que ça, on verra que ça a plutôt décliné depuis les années 70, parce que plus t'as de voiture,
moins
tu roules vite. Et en fait, les autrices nous expliquent qu'on utilise d'abord la voiture pour ses atouts plutôt que pour sa vitesse, donc ça veut dire le fait que justement d'être isolé, d'avoir une cage autour de soi pour avoir sa musique, ses trucs, ses contacts, et de faire en sorte que t'as quand même un microclimat réglé au degré près, t'as des trucs, enfin les aménités d'une voiture aujourd'hui c'est plus une bulle de confort et un salon roulant que un TGV,
Par contre il y a aussi le fait que tu puisses partir quand tu veux, et arriver à l'endroit précis où tu dois rester.
Tout à fait.
Donc il n'y a pas de rupture de charge, etc. Bon voilà, je ne vais pas rentrer dans la partie
si
logistique.
On avait été.
Si. Toi, apporte-nous ta vision logistique.
Voilà, rupture de
charge.
Mais
si on avait été en podcast en 1950, je pense qu'on n'aurait pas vu.
Les gens seraient à la radio.
L'ORTF.
Ou alors on aurait été visionnaire. Et je pense qu'on aurait été très enthousiastes tous sur la voiture. Je comprends tout à fait.
Ça fait partie du diagnostic dans le bouquin aussi, c'est que la voiture, ça a été un formidable vecteur d'émancipation, y compris pour les femmes, puisque ça a été un moyen de se déplacer de façon libre. Et que aujourd'hui, le fait d'aujourd'hui d'avoir un permis de conduire dans certains pays, c'est un enjeu politique.
Ouais.
Pourquoi dans certains pays, mec, moi, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon permis.
Non, mais dans le sens où toi, t'as eu l'autorisation de passer ton permis, alors que les Saoudiennes, c'est un truc qui est plutôt récent.
Ah oui, d'accord. Alors, La grille urbaine en Arabie Saoudite, il faudra qu'on en parle.
Ouais, alors là, j'ai pas extrapolé sur le monde entier.
C'est l'Amérique, mais en moins bien. Déjà que l'Amérique, c'est pas ouf.
On y revient là.
Ce qui fait que ça m'amène à mon chapitre 32.
D'accord.
Le tout voiture. Le tout voiture, vous avez déjà entendu cette expression?
Bien sûr.
Tout à fait.
Sachez que c'est une expression très française. Il n'y a pas vraiment de traduction. Enfin, il n'y a pas de truc. Nous, c'est vraiment le tout voiture. Quoi.
Les Suisses disent l'automobilité.
Oh, c'est voilà. Joli. Mmh. Les trois points du tout voiture, je vous les résume. D'abord, réaliser tous les déplacements en voiture. Logique.
c'est quand même pas mal.
C'est la base.
Cette porte ouverte est complètement défoncée.
Du coup, c'est adapter notamment la ville à ça.
Okay.
Donc, on élargit la chaussée. On met des stationnements partout. On fait en sorte que la ville soit adaptée à la voiture. Mmh. En urbanisme, on va voir qu'on pète plein de trucs pour avoir des grandes routes. Mmh. On voit notamment Los Angeles.
Oui.
On va déformer la ville et les multivoies parce qu'il y a la voiture.
Mmh.
Et le troisième point, c'est qu'on va développer aussi tous les aspects autour de la voiture, à savoir comment avoir les meilleures applications pour se connaître les trajets en telle chose, comment se stationner au mieux, voilà. On va développer beaucoup de faire de R&D autour de la voiture. Dans tous les cas, le tout voiture, il y a des limites, comme sur l'urbanisme avec les gens qui étaient un petit peu utopistes sur dire on va faire ça, il y a toujours des limites, notamment là, parce que plus il y a de voitures, plus c'est la merde. Comme vous disiez, effectivement, d'abord c'est pour la vitesse, sauf que plus t'as de voitures, moins tu vas vite.
Ouais.
Pourtant,
il y a plein de villes qui ont mis du temps à comprendre ça. Genre, je crois que c'est au Texas, l'autoroute a 2x13 voies ou un truc comme ça, où en fait, ils continuent à rajouter des voies.
Ça ne marche pas.
Ça ne fonctionne pas, mais ok.
Là, il y a une étude que j'ai lue sur si la population de New York, des New-Yorkais qui se déplacent en transport en commun pour aller au travail, devaient prendre chacun une voiture individuelle, il faudrait à peu près, à partir de la 50e rue, à partir du dessous de la 50e rue
à
Manhattan, faire uniquement des parkings en étage pour contenir toutes les voitures.
Mm.
Du coup, c'est un peu comme si à Paris, je parle en parisienne, on enlevait la rive gauche pour mettre les voitures. Après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de la rive gauche? Non.
J'y suis allé la semaine dernière, c'était pratique. Si elle n'était pas là, j'aurais été emmerdé, mais ok.
Mais t'as une consommation de l'espace qui est énorme.
Bah, le tout voiture, c'est... Voilà. Si les pauvres veulent s'y mettre, faut y aller.
Ce qui est marrant, c'est moi, il y a deux trucs qui me surprennent en fait, c'est que premièrement, il a fallu arriver au tout voiture, c'est-à-dire que Paris, c'était pas une ville de voitures à la base il y a 200 ans, tu vois. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a donc une impulsion politique qui a été prise, une volonté de le faire. Ça veut dire qu'ils ont dû péter toute la ville pendant un temps incroyable.
Oui.
Alors,
donc il devait y avoir des saccages Paris, mais dans l'autre sens.
Est-ce qu'on peut glisser un jingle news en même temps là, double jingle?
Cette émission n'a aucun sens. Donc une news,
le périphérique parisien a 50 ans.
Oui.
Il n'a que 50 ans.
Oui.
Ouais, que 50 ans.
C'est fou, on a l'impression qu'il a 2000 ans le
périph.
Eh
oui. Non, c'est 50 ans le périph parisien, tu vois. Donc on
sacré
parlait du périph. Tout voiture.
Donc 50 ans, ça veut dire 73.
Ouais.
Ouais.
Mais comment faisait-on avant?
Ben voilà.
Et surtout pourquoi?
Mais tu te rends compte à quel point ce truc-là est considéré comme immuable aujourd'hui?
Bah c'est en fait ça ceinture physiquement la ville, ça l'empêche de s'étendre.
Non, c'est ça. Et
c'est une barrière géographique.
T'as un truc qui fait qu'aujourd'hui c'est impensable. Enfin, quand Hidalgo a dit on va peut-être réduire le nombre de voies et faire en sorte de végétaliser le périph, les gens ont dit vous êtes complètement fou, on peut pas faire autrement, machin et tout.
Alors 50 ans,
c'est même pas une vie d'homme, tu vois. Et
c'est fou,
on est incapable de penser au-delà de ce truc-là.
Ouais. Alors, le périph.
Plusieurs
informations, plusieurs anecdotes.
Oui,
c'est la route la plus empruntée d'Europe.
Ouais, alors j'aime bien ces chiffres qui veulent rien dire là. D'ailleurs, il n'y a aucun chiffre.
Non, mais
justement, j'aime bien. Oui, la gare du Nord, c'est la gare la plus empruntée d'Europe. Et blablabla. Tout est plus emprunté d'Europe.
Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Et en fait, ça a pris la place des anciennes fortifications. Donc Paris était déjà ceinturé.
Ouais.
Donc c'est pas. Voilà.
Bah, par les maréchaux.
Il y avait déjà une petite couille au niveau de la.
Oui, mais il y avait les maréchaux.
Non, en fait, il y avait des murs d'enceinte.
Oui.
Qui était une zone quasiment démilitarisée. En fait, il y avait une espèce de truc de ceinture d'herbe. Presque.
Je vais vous sortir
Donc ça c'est non mais alors c'est rassurant parce que du coup c'est ça vient à l'inverse de ce que moi je pensais, c'est-à-dire qu'on l'a pas on n'a pas décidé d'ériger d'un seul coup des ponts autoroutiers. Et...
Alors on a fait ça à la défense sur les bidonvilles de Nanterre, on a viré tous les pauvres. Mais,
mais je veux dire on a quand même construit le périphérique sur un truc existant.
Oui.
Oh, tout à fait.
Et en fait il y a toujours une volonté qui est assez propre à Paris d'ailleurs de séparer la ville du reste.
Mm-hmm.
Genre ne nous touchez pas les gueux quoi. Et j'ai une citation de 1937 des services techniques de la ville qui écrivait que quote Paris doit être défini de manière élégante et précise afin que les étrangers abordant l'île de France ne la confondent pas avec sa petite couronne.
Sympa.
Non, non, mais ça serait dommage. Non, par contre, la séparation entre le bourg et la banlieue, qui était littéralement je vous l'explique. La banlieue, c'est le lieu où s'applique le ban, donc c'est le lieu où le pouvoir de l'autorité s'applique encore. Donc c'est-à-dire qu'en gros,
on en apprend plein.
Même si t'es en dehors des murs, t'es encore sous l'autorité du seigneur. Et c'était typiquement après les murs d'enceinte et là où il y avait les portes, parce que les grandes portes de Paris, c'était là aussi où tu percevais l'impôt. Puisque, en gros, si tu voulais rentrer pour commercer dans la ville, tu passais par la porte et tu devais t'affranchir de l'impôt pour, justement, avoir les aménités de la ville, en fait. Puisque tu arrives sur un lieu qui est dense, donc, en fait, tu profites de l'espace et tu payes aujourd'hui. Je vous le cache pas, quand tu rentres dans Paris, tu payes pas.
Si, mais d'une autre façon.
Non, mais dans le sens où t'as pas de péage pour
c'est
rentrer
pas
dans le. C'est pas Londres. On a retiré ce truc-là aussi pour le tout voiture, puisque ça fait partie de la condition nécessaire du tout voiture, c'est que ça doit être gratuit. Ou du moins porté par la communauté, parce que le périphérique parisien n'est pas payant.
Oui.
Le stationnement est payant que depuis récemment. Enfin.
Récemment,
plus ou moins. Non, mais plus ou moins.
Payant dans les rues de Paris, ça fait
non, le stationnement payant hors rue truc, ça a été sous Hidalgo et ça a fait un front pas possible.
Attends,
dans
le stationnement
quartiers.
Payant des véhicules.
Ouais.
Mais tu es cinglé.
Ah, il y avait certaines rues, mais tu t'en souviens pas. Il y avait certaines rues qui étaient pas les rues les plus empruntées. Tu avais des trucs de quartier. Le bois de Vincennes, tu pouvais t'y garer gratuitement.
Ah oui, stationnement résidentiel, d'accord.
Tu vois.
Et donc, ces grands axes routiers,
oui.
C'est très nouveau puisque. C'est le développement de la ville, l'ère industrielle, effectivement le tout voiture qui fait que chacun peut avoir son petit, sa petite maison en dehors de Paris. Donc ça génère de plus en plus d'axes routiers. On a échappé à plein de trucs à Paris, notamment à l'axe nord-sud. Donc là, si ça avait eu lieu, on serait en train de parler au-dessus de l'autoroute.
Ouais.
Ça serait sympa, mais
ah oui, sur le, ils voulaient recouvrir le canal de Saint-Martin.
Exactement. Ça existe dans plein de villes. Hein. Lyon, il y a l'autoroute qui passe littéralement au milieu. Ouais. Angers, Reims, Strasbourg, enfin il y en a plein.
Je crois que Paris est un peu l'exception.
Non, parce qu'on a eu les voies sur berge longtemps.
C'est vrai.
Donc en fait, c'est de plus en plus les habitants qui râlent un peu et les politiques urbaines. Mais sinon, ça serait ça le plus logique. Ouais, c'est d'avoir des immenses axes au centre pour pouvoir relier la ville du nord au sud et de l'est en ouest de partout autour de la ville. Quoi.
Bah, c'est vrai que quand on se balade sur les voies sur berge, maintenant c'est impensable de se dire qu'à une époque pas si lointaine, c'était blindé de bagnoles.
Ouais. Mais tu vois, c'est fou les trucs qu'on considère comme immuables.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais,
et là, je vais faire la meilleure parabole de l'histoire. La gastronomie italienne, par exemple, il y a des trucs. Toi, je sais que ça va te parler le carbonara gate.
Bien sûr, de Slate. Qu'on salue au passage.
La carbonara, qui est le truc qu'on considère comme la tradition culinaire italienne, que ça se fait avec des œufs, un mélange de deux fromages romains et
crème fraîche.
Hein. Et justement, c'était les puristes, mais pas de crème fraîche, machin. Sauf qu'en fait, apparemment, ce truc-là, ça a à peine 30 ans.
Oui, la gastronomie italienne,
fait, c'est du mytho. Qu'en gros, il y a quelqu'un qui a décrété que c'était la tradition et que, globalement, on est à peu près sûr que ça vient des Américains quand ils étaient dans les années 45 là-dessus. Papier, et qu'en gros, apparemment, c'était fait avec du bacon, de la crème et du fromage, comme ça. Donc, il y a une sorte d'espèce d'invention de la tradition, machin, et les trucs...
La technique, excusez-moi, hein, cette pratique-là, c'est-à-dire d'essayer de tirer des traditions ancestrales d'un truc qu'on a inventé la semaine dernière, c'est précisément ce que fait le Rassemblement National sur à peu près toute l'histoire de France.
Mais non, mais sur y compris sur le truc du territoire, hein. tu l'aménagement du territoire, l'urbanisme, tu dis ah ben c'est pas impossible, c'est la tradition qui est comme ça, machin. La tradition c'est il y a 50 ans.
Et ben justement, je vais rebondir.
Vas-y, let's go.
Parce que le ça tout fuse. Voiture, là on parle des grands axes routiers, ce qui nous paraît évident. Bah oui, pour mettre des voitures, il faut bien qu'elles roulent quelque part, donc il faut faire des routes. Sauf que l'aménagement de toute la ville est construite autour de la voiture. À savoir. Par exemple, le temps de traverser des piétons, le petit bonhomme vert, c'est basé sur le minimum légal de 1 mètre par seconde. Sauf que c'est bien trop supérieur par rapport à plein de populations, comme les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc, on n'y pense pas. C'est juste, il y a des voitures, il faut qu'elles n'attendent pas trop au feu rouge. Les traverser en plusieurs temps, c'est fait uniquement pour les voitures.
Oui.
On ne veut pas laisser du temps aux piétons. Il y a eu beaucoup de politiques urbaines sur de la préconisation de transports en commun souterrains pour ne pas gêner les voitures.
Les voitures.
On pourrait penser que c'était pour pas gêner les riverains.
Eh ben non.
Mais c'est les voitures.
Exactement. Et aussi beaucoup de décalage de passage piéton pour pas qu'il soit collé au tournant ou des choses comme ça, ce qui fait que le piéton doit faire un détour pour accéder à un passage piéton pour que la voiture, ce soit plus simple pour elle de circuler. Donc en fait, tout est fait dans notre façon de marcher et dans la ville notamment
pour accommoder
pour
les voitures. Ça me rend fou. Tu sais, c'est quand tu arrives sur des grands boulevards où tu as un angle et en fait tu as une barrière qui t'empêche de traverser à l'angle et il faut que tu fasses le tour
et ça
prend 5
exactement ça.
Putain de minutes.
Et en fait, on s'en rend pas compte, mais ça nous a un peu modelé.
Non, mais complètement.
Ça nous a complètement modelé, ouais. Mais jusqu'au point où tu ne le remets plus en question.
Exactement.
Ouais. Et tu te fais engueuler si jamais tu traverses pas pile dans les clous, des machins. Mmh. C'est en fait le. Parce que ça, c'est un truc qui était aussi aux États-Unis, ce qu'on appelle le délit de jaywalking. Donc en gros, où tu traverses hors des clous. C'est un truc de l'industrie automobile qui a lobbyisé à fond. Les politiques pour dire non, mais il y a un moment, votre espace c'est votre espace, laissez-nous rouler tranquille.
Alors, on va du coup parler de maintenant. Après le tout voiture, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une évolution? Bien sûr, mais pas partout. Alors, je vous propose de développer après un peu les évolutions de comment tu vis à côté du tout voiture, mais il y a une théorie, il y a beaucoup de gens qui sont contre les piétonnisations de centre-ville, je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement.
Parce que ça fait baisser le commerce.
Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la théorie du coffre.
C'est faux.
C'est parce que tu dis, si tu as une voiture avec un coffre, tu peux acheter plus. Oui. Donc du coup, si tu ne peux pas amener ta voiture au centre-ville, c'est complètement faux, effectivement. Il y a mille études là-dessus. Et en fait, les piétons sont largement des meilleurs consommateurs. Ils consomment moins, mais ils consomment beaucoup plus souvent.
C'est ça. Parce que moi, ça, c'est un truc aussi que j'en parlerai quand on viendra sur l'ouvrage ou pas. Peut-être que j'en ferai une autre chronique à un autre moment. Le timing d'utilisation, enfin de faire de course, a été conçu et pensé pour le fait d'avoir une voiture. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas aller une fois au supermarché par semaine pour remplir ton frigo. Et en fait, tu as un mode de consommation qui est calé pour faire en sorte que tu fasses un point de consommation hebdomadaire et que tu passes une journée ou une demi-journée, parce que tu vas dans un centre commercial. Et en gros, peu importe si tu as fait 20-40 minutes de voiture, tu vas rentabiliser ton après-midi parce que tu as un temps de consommation. Et tu te dis, bon, bah, quitte à remplir mon frigo, je vais aller faire d'autres boutiques, machin, à côté. Et tu ne fais pas.
C'est totalement faux, car les gens qui font des courses vraiment à l'hypermarché savent très bien qu'une fois que tu as passé ton caddie dans la caisse de l'hypermarché, tu ne traînes pas dans la galerie parce que tu as des surgelés et des frais que tu dois mettre à l'abri rapidement.
Et du coup, t'as les jeunes urbains, les jeunes slash urbains slash les gens qui n'ont pas de voiture, ils ont des achats qui sont beaucoup plus quotidiens.
Oui.
Mais du coup, et là par contre, il y a un vrai point, c'est que je m'en suis rendu compte moi-même, étant dans cette catégorie de gens qui descend à la supérette pour acheter une plaquette de beurre ou un pot de crème fraîche tous les jours, tout le temps, en flux tendu quasiment. Ça coûte beaucoup plus cher de le faire comme ça.
Ça coûte beaucoup plus cher, sauf
que
parce que c'est pas organisé.
Parce que tu gâches moins. En vrai, non. Non, parce que tu vois, les gens qui disent je vais faire des grosses courses parce que comme ça j'ai des gains,
Ouais, oui.
Mais en produits frais et trucs comme ça, tu gâches beaucoup plus.
Oui,
que
mais
si...
n'oublions pas que l'immobilier étant ce qu'il est,
ouais,
la supérette en bas de chez toi, elle va te tabasser la gueule au niveau
ouais,
du
mais
prix.
C'est là où tu n'as
pas que de la supérette, tu as du Franprix, tu as du Monoprix, tu as des. Enfin, bon, je sais pas les moins chers.
Ça dépend des villes, et Monoprix et Franprix.
Mais c'est là où tu touches le.
Moi je suis à Diagonale. Ce sont des enculés. Je les aime.
C'est ce qu'on se dit, moi.
Je les connais bien et tout, mais ce sont des enculés niveau prix.
Tu touches mieux. Un point qui est que aujourd'hui le commerce de proximité aujourd'hui c'est un truc de premium, alors qu'en fait si c'était beaucoup plus démocratisé, enfin moi j'ai ça, typique phrase de parisien, j'ai un relais de producteurs dans ma rue bio ou en transition,
frappez-le.
Non mais c'est vachement moins cher que le supermarché d'à côté, à ce point-là moins cher que j'achète les quantités dont j'ai besoin, c'est-à-dire que tu pèses tes trucs, tu prends pas une barquette machin, donc oui je te rejoins, tu gâches moins, tu payes pas d'essence pour y aller, donc je pense que ça se discute, tu vois.
Franchement,
les
prix, le panier moyen, les gars.
C'est plus cher, c'est sûr. Mais moi, je te dis, je pense qu'il y a un choix politique à faire de remettre des commerces de proximité. Alors là, nous, on est dans des grandes villes, donc c'est évident pour nous.
Mais
sur
que...
des villes plus moyennes.
Non, mais arrêtons tout. Je suis pas d'accord avec toi, Daz. De la merde. Mais non, mais je vais vous donner mon expérience personnelle. Mais alors, c'est peut-être bobo parisienne de merde, mais c'est juste une meuf qui fait le marché. Et le marché, t'en as partout en fait.
C'est vrai.
Et le marché, c'est beaucoup moins cher d'acheter
des
légumes.
Et le marché, c'est la France.
D'acheter des produits frais au marché qu'au supermarché,
c'est
en fait.
Ouais. Sauf que le marché chez moi, il est le mercredi. Le mercredi, les gens travaillent.
Bah, tu décales.
Ouais, bah, voilà. Tu décales.
Et voilà, encore une fois.
Tu t'es
un délire de freelanceos.
T'as qu'un marché. Moi, j'ai des marchés.
Un délire de freelanceos. Tu travailles à l'usine, peut-être.
Mais non, mais justement, c'est pour vous dire, je suis freelance et je pourrais le faire, mais je le fais pas.
Tu te maries avec une femme qui reste au foyer et qui va faire le marché.
Bah oui, évidemment, bien sûr. Oui, oui, oui. Le patriarcat. Le patriarcat sauvera les consommateurs. Non, non, bien sûr. Oui, alors effectivement, il y a des alternatives, mais ce que je veux dire, c'est que la petite conso, tu sais, au fil de la semaine, tous les jours, tu descends, tu ramènes pour 10 balles par-ci, 20 balles par-là, etc. Et bah, au final, tu te dis, je me fais quand même fistax.
Oui, mais là, je rebondis pour les commerçants. Oui. Si tu as un centre-ville piéton et que justement, tu n'as pas rempli ton coffre de surgelé, ouais, et que tu as juste acheté ta plaquette de beurre, et ben, tu passes aussi chez le petit artisan qui fait je sais pas quoi. Tu dis, ah tiens, j'aime bien cette petite boutique, je vais aller voir. Et donc, tu consommes beaucoup plus peut-être, et tu consommes sur des commerces.
Bah, tu consommes surtout local en fait. Ouais, genre, quand tu. Parce que ça va être ma marotte, mais quand tu fais vivre ton tissu commerçant local et pas du franchisé, c'est des euros qui sont directement dans les poches d'artisans et de commerçants et pas dans la grande distribution, parce que bon, rincer le groupe Muliez, c'est cool, mais
oui,
pas
mais
vraiment
encore
quoi.
Une fois, vous êtes un peu manichéen, vous partez du principe que c'est les méchants hypermarchés contre les gentils commerçants de quartier, alors que les commerçants de quartier sont des gros fumiers. Merci. Mais non, mais voilà, moi j'ai une boutique, j'ai une boutique, je vais vous dire Esprit Mode à Maison Alfort, mais ce sont des enculés, voilà, je me permets de le dire.
Monsieur Daz.
Oui, mais par exemple, ton kebab.
Oui,
c'est
le poulailler. Non,
bah
c'est des beaux gosses. Ouais, non, mais alors, le kebab production locale, mon cul sur la commode, je veux dire.
Non, mais.
Même lui, il essaye pas de nous la faire, celle-là. Tu vois, il a compris.
Non, mais vous déformez, vous saillissez tout. Vous saillissez tout, monsieur.
Bon, en tout cas, revenons à la piétonisation des centres-villes. Oui. Il y a donc des études qui montrent que c'est mieux pour les commerçants.
Tout à fait.
Il y a, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Eh ben, il y a pourtant des gens qui sont en train de revenir sur la piétonisation des centres-villes, comme par exemple à Tourcoing.
Ouais.
Qui est maire de Tourcoing.
Le Darmanin, voilà, bien sûr.
Souvent, les villes où ça se passe, ce sont des maires de droite. Je lance ça.
Et des maires de droite. Hein.
Et d'ailleurs, les commerçants, en général, qui ont été consultés avant, sont contre. Et une fois que c'est mis en place et qu'ils voient les résultats, ils sont en général pour, après.
Bah oui,
mais
bien
parce
sûr.
Que dans le plus pur esprit de
du tiroir-caisse, c'est le tiroir-caisse.
D'abord, on a peur et ensuite, on se rend compte que, voilà, comme d'habitude. Ouais.
Et donc, dans un monde où il n'y a pas des gens de droite... Il y a du coup une évolution après le tout-voiture.
Tellement se faire tabasser dans cette émission, c'est incroyable.
Oh là là.
Et je vais vous parler de la ville piétonne. Adas
JDM sur
la ville piétonne.
La ville piétonne. Est-ce qu'on en fait un chapitre ?
Est-ce que c'est un chapitre ? Je pense que oui, c'est un chapitre. Allez, c'est parti, Louis. Alors, la ville piétonne, en opposition donc au tout-voiture. Vas-y, fais-nous rêver, Chloé.
Bah, le développement des zones piétonnes, elle est arrivée du coup... après le tout voiture, quand on s'est rendu compte que c'était pas si cool de cohabiter avec des voitures.
D'accord.
Donc, il y a eu aussi un enjeu sanitaire, je pense pour les maires ou les urbanistes qui ont fait ça, c'est qu'on marche de moins en moins et que ça devient un peu compliqué au niveau de la santé. J'ai lu quelque chose notamment sur les enfants, là, qui le fait qu'ils n'aillent pas à l'école à pied font qu'ils sont surexcités, ils sont dans le mal, ils écoutent rien à l'école. Et,
ils sont peut-être tous HPI tout simplement aussi, parce que c'est quand même l'époque qui veut ça.
Voilà, exactement. Bah, sinon, marchez, vous ne serez plus HPI. Voilà. Hop, paf.
Marchez, soyez cons.
Et en plus, il y a plein d'adaptations. Alors déjà, c'est mieux pour les commerçants, c'est mieux pour la santé, il y a plus de nuisances sonores, donc c'est encore mieux pour la santé. Et il y a des villes tout piétonnes qui existent.
Alors un exemple.
Venise.
J'en avais parlé.
Alors Venise, oui.
Venise.
Oui,
est-ce qu'on peut parler vraiment d'une ville ?
Oui, mais non, c'est plus un parc d'attractions, Venise. Quand
et
même.
Après, là, c'est vraiment, oui, c'est un peu particulier Venise, mais il y a des villes où le centre est piéton.
L'hypercentre,
mais même Barcelone, en fait, ils sont en train de développer des super îlots piétons neufs, donc ça devient vraiment l'hypercentre est piéton, quoi.
D'accord.
Donc ça marche, en fait.
Donc possible. Barcelone, Venise, est-ce qu'on a des villes pas du tiers-monde, par exemple ?
Oui.
Big up l'Espagne et l'Italie.
Ah bah c'est dommage, j'allais te parler de Masdar City qui est un projet en Arabie Saoudite, je crois.
Ah non, mais eux ils ont plein de projets éclatards. Hein.
Ouais, on en parlera après. Okay. Masdar City c'est une ville toute piétonne, entièrement.
D'accord. Oui, mais et... c'est un projet de ville.
Ouais, c'est un peu en construction.
C'est-à-dire que, hein. Ouais, ok. Non, mais sinon une ville qui existe déjà, par exemple, je sais pas moi.
Non, mais je te parle plutôt du centre-ville qui devient de plus en plus piéton, quoi.
Ouais.
Et en fait, où on se rend compte que bah, c'est pratique et cool et ça change rien à la vie. Alors, je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert et que. Je suis fan absolue et je pourrais faire une émission entière là-dessus, qui est le principe du métro minuto. Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept?
Encore un truc du tiers-monde déjà.
Oui, ça a été créé en Espagne, donc voilà. Si tu penses que c'est le tiers-monde, oui. À Pontevedra, très exactement. Et c'est en fait des plans qui reprennent l'esthétique des plans de métro un peu partout dans la ville. Où ah, en oui, fait, c'est vu. Pour relier les points importants de la ville avec le minutage à pied.
Ouais.
Donc, c'est trop bien.
Et ça a été développé partout, c'est mais donné
c'est ce qu'on
a à tous les offices
enfin,
de tourisme.
On a ça à Paris aussi.
Oui, mais à cause de ça. Parce d'accord. que Metro Minuto a gagné des tonnes de prix, a oh. encouragé, ça a été créé en 2011. Et c'est très beau. Et effectivement, on le voit de plus en plus à Paris, on voit notamment sur les plans avec le
cercle,
rond concentrique et voilà, les zones de marche à pied. Et ouais. Je trouve ça... voilà, enfin, on change aussi, c'est aussi ça, le changer le tout, va tout voiture, comme on disait tout à l'heure, la ville est construite avec les passages piétons pour la voiture, bah là, justement, on renverse un peu la donne en disant, bah non, vous n'allez pas penser en termes de trajet voiture, vous allez penser en termes de trajet à pied. Et ça change un peu tout.
Mais en fait, il faut aussi que les gens prennent en compte la notion des distances qui, pour beaucoup, était... en fait, en gros, dès que tu passais le 2 km... La voiture était la solution. Je veux dire, les gens se disaient même pas, tiens, mais on va le faire à pied, en fait, parce que.
Non, mais c'est ça fait partie des pistes qui sont évoquées dans le bouquin pour les changements d'habitude. En fait, ton changement d'habitude et le truc et le fait que tu changes ton comportement, ça vient aussi du fait que tu expérimentes des nouvelles choses et qu'en général, tu vois, il y a des gens. 20 minutes à pied pour un truc, ils l'avaient pas expérimenté, quoi. Ben au bout du moins, pas depuis longtemps, où c'est des choses qui leur paraissent impossibles. Et en fait, au fur et à mesure que tu le fais, c'est jouable.
Mais parce que c'est excuse-moi, Chloé, c'est la valeur du temps passé qu'il faut aussi remettre dans l'équation.
Super, super segway là-dessus. Il y a tout un chapitre sur l'espace de l'effort, en fait, là-dedans, et qui, justement, fait l'apologie des mobilités, enfin des modes actifs. Parce qu'en fait.
On rappelle les modes actifs, c'est la marche à pied, le vélo,
tout ce qui
te fait faire un effort physique.
Un effort physique. Et justement, quand on parle à quelqu'un qui planifie du transport et un urbaniste, il va réfléchir le choix modal. En fait, il y a des algorithmes ou des façons de le calculer. On va partir du postulat que tu vas choisir le moyen de transport qui te coûtera le moindre effort. Ce qui, en fait, est plutôt invalidé par pas mal de constatations.
Par la vie, généralement.
Par la vie, ouais.
un quart d'heure à pied et 30 minutes en bus, j'y vais à pied.
Voilà, quoi, et que... Non, mais que du coup, tu vois, pour des trucs qui sont parfois équivalents ou parfois même un peu plus longs, t'as d'autres trucs qui rentrent dans ton choix. Par exemple, moi, j'ai plutôt que parler de l'espace de l'effort, j'ai parlé de l'espace du kiff. Voilà.
Oui.
C'est-à-dire qu'en gros, si tu prends 15 ou 20 minutes, parfois, tu prends une boucle par les quais ou par n'importe quel endroit, un itinéraire qui est un peu chouette,
est mis
en valeur, et en fait, tu vas plutôt prendre le truc. Moi, je l'ai déjà fait, alors pas pour du mode actif, mais pour du bus. Il y a des fois, tu te dis, je vais plutôt prendre le bus plutôt que le métro parce que t'es dehors. Tu vois le truc. Et en fait, ton choix, il n'est pas forcément le plus rationnel à ce moment-là.
Non.
Mais tu as kiffé. Et il y a l'étape d'après qui est la Kenborgardisation de la vie. Qui est de voir tout
le Japon partout.
Tout en tracking de fitness et c'est un peu moi aussi. C'est que justement tout ce qui est Apple Watch et tout, il y a le truc de remplir ses cercles et faire ses 10 000 pas par jour, faire ces trucs. Et en fait, tu peux récupérer du temps de ta journée en utilisant ton commute comme un peu ton entraînement ou un truc qui est un peu ludique. Quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on redonne une valeur palpable au fait de se déplacer d'un point A à un point B qui jusqu'à présent en fait
les Américains ils ont un truc qu'on a du mal à traduire en français, c'est le cruising. Et
alors,
c'est là, c'est
cruising.
Comment tu traduis
alors? Tu traduis
comment?
Cruising.
Non, mais tu vois,
le croisirage.
Le croisirage.
Le croisirage.
Moi, je milite pour des mouvements de croisirage pour aller au boulot.
Juste
c'est-à-dire que,
croisirage.
Juste kiffer, tu vois. Et en fait, ça lève un des leviers d'action publique pour rendre ces moyens de transport attractifs. C'est qu'en gros, il faut que ce soit donc plutôt ludique, bien aménagé. Donc soit passer par des trucs, là ils ont fait une carte par exemple de tous les monuments dans la région là, donc qui parle entre Lausanne et Genève, ils ont fait en gros les points d'intérêt, genre
toutes les banques quoi.
Non mais comme dans un à la façon d'un jeu vidéo en fait, t'as les points of interest que tu peux aller voir et du coup tu fais un petit détour, tu kiffes, t'y vas. Faut que ce soit safe aussi parce que du coup si tu prends ton vélo et que tu te chies dessus parce que tu c'est trop dangereux ou que tu traverses une autoroute, c'est quand même pas cool, et que ce soit vraiment attractif, tu vois, pour les gens, et que en fait ça peut être un moyen de se dire bah voilà, plutôt que prendre la voiture, là il fait beau aujourd'hui, machin, bah je vais aller au taf. Et du coup, tu as une expérience sensiblement différente, vraiment, parce que moi je reprends l'exemple que j'avais quand je suis arrivé à Paris. C'est que moi je pense que j'ai été le mec le plus chelou de la Terre pendant 6 mois dans le paysage parisien. C'est qu'en gros, je suis arrivé de ma Normandie natale et je prenais le vélo pour aller bosser, enfin pour aller à la fac. Et moi, j'ai une banane de ouf, tu vois. Genre, je me baladais dans Paris, c'était des trucs que je connaissais pas, moi, tu vois. Je descendais du 19e pour aller jusqu'à la Sorbonne, et je passais devant Notre-Dame, machin et tout. C'était trop bien, tu vois. Genre, t'arrives, t'es dans une des plus belles villes du monde, machin.
Bah c'est encore le cas, ça. Enfin, je pense que tous les gens qui sont en vélo à Paris.
Y a un moment où là, t'as un peu la routine qui s'est installée.
Non,
les
mais
gens,
alors,
ils sont en mode
t'es sur le boulevard Magenta ou le boulevard Sébastopol, je comprends. Mais du coup,
tu vois, genre, on parlait des voies sur berge tout à l'heure, où là, on a le canal sous les yeux, franchement c'est kiffant, tu vois, de se balader au milieu des trucs de Paris. Donc il faut rendre les villes marchables de façon intéressante et
marchable
ludique.
Cyclable,
oui. C'est les deux, tu vois.
Et mais pas trottinettable, hein, si on prend l'exemple de Paris et de l'actualité récente, par exemple.
Bah, on a voté contre, mais moi, je pense qu'on n'a pas voté contre les trottinettes.
Parce que vous êtes intramuraussien.
On n'a pas voté.
Moi, j'ai voté.
Non, j'ai pas voté.
T'as voté quoi?
J'ai voté contre.
Et voilà, homme de droite. Bah bravo.
Bah non, je suis pas homme de droite, parce que moi, je voudrais qu'il y ait des trottinettes, mais pas en free floating. Je voudrais qu'il y ait des trottinettes dockées,
comme
avec des endroits comme des Vélib, et je veux surtout pas. En fait, moi, ce qui m'a gonflé, c'est les campagnes d'influenceurs qui sont venus voir.
Non, mais ça va, ça a popé deux jours avant le scrutin.
Non, mais
c'était un peu de la merde.
Si on peut ne pas nourrir les startups Uber et autres pour les déplacements, moi je suis.
D'accord, mais
je recentre le débat. On n'est pas sur la trottinette, on s'entasse.
Oui, pardon,
mais
si, parce que ça fait partie
justement
du tissu
urbain. Vous êtes en train de
oui,
dire.
Vas-y. Ouais.
C'est que tout le monde n'est pas un Ken ou un Victor en puissance de se dire naturellement, je vais le faire parce que je comprends l'intérêt de se déplacer. Ouais. Donc, comme tu dis, effectivement, c'est aussi aux politiques publiques de faire en sorte que Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde puisse avoir
le problème de cette vision-là qu'ils ont eux, c'est qu'il faut déjà avoir commencé à le faire pour en voir. Les intérêts qu'il y a derrière.
Ben alors, ou alors, tu niques la vie des gens en voiture.
Non,
j'explique mon point de vue. Pour moi, justement, pour revenir après le tout voiture, justement parce qu'on a un peu niqué l'urbanisme en faisant des grands axes, des choses comme ça, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir reconstruire des bouts de ville, et notamment pas de ligne droite, pour forcer la voiture à ralentir, des espaces protégés pour les cyclistes ou pour les piétons qui sont prioritaires, comme tous les ronds-points hollandais. Et dans un autre...
On peut tout simplement tirer sur les conducteurs avec des balles.
Ne me tente pas, en fait.
Okay.
Je suis à deux doigts d'installer une baïonnette au bout de mon vélo. Mais l'autre point, sinon, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de marcher pendant 50 minutes. On peut aussi réfléchir à une ville avec des espaces à 15 minutes. C'est le principe
de
développement d'Anne Hidalgo, qui est le 15 minutes.
Carlos Moreno.
Oui, qu'elle a pris à partir
de
lui. Mais
ça reste sur les Espagnols, quoi, j'ai l'impression.
J'ai l'impression qu'ils sont un peu doués, les Espagnols.
Je vais citer parce que justement, ils ont fait, dans le bouquin, ils ont fait 48 entretiens avec des personnes.
C'est pas 45.
Cinquantaine de personnes.
D'accord.
Et justement, dans ces entretiens, ils ont essayé d'essayer de déceler les facteurs comportementaux qui font que tu peux changer et passer à 100 voitures.
Et sans en fait, voiture, le chiffre ou
non, sans voiture, donc passer de la voiture.
Chacun
zéro voiture.
Aurait 100 voitures.
Ouais, bah pourquoi pas.
Dans les 48 entretiens, tout le monde s'est déclaré préoccupé par la pollution, le changement climatique, et il y en a 41 qui ont dit qu'ils n'avaient pas changé leurs habitudes de vie, pas de façon fondamentale. Et en fait, ça revient dans un principe psychologique, c'est qu'en fait, le fait de disposer de l'information ne te fait pas changer ton comportement au quotidien.
Logique.
Et du coup, ils
faut une coercition.
Ben, pas tant que ça, en fait. Là, ils ont identifié des leviers qui sont autres.
Ou un fusil sur la tempe.
C'est donc les expérimentations de d'autres manières de vivre. Donc ça, par exemple, ben, on en parlait tout à l'heure, c'est d'aller dans une ville où t'as... Par exemple, tu vas dans un voyage en Espagne et tu vois... C'est, alors, comment ça s'appelait, le truc
Metro Minuto. À Pontevedra.
Les journées sans voiture. Pour ça, c'est super cool. Parce qu'en fait, il y a un moment où, un jour dans l'année, hop, tu mets le bouton pause et tu peux voir ce que c'est qu'une vie... sans voiture, mm-hmm. essayer de ça. Il y a eu bah, pendant le Covid, vraiment il y a eu un truc qui était très fort, et donc tout le monde a pu un peu l'expérimenter. Il parle aussi de tout ce qui est changement de valeurs, donc en fait des valeurs qu'on porte, et justement
ça c'est très important.
Il parlait de gens qui avaient pris conscience en regardant un documentaire écologiste où il citait l'exemple d'une quarantenaire qui s'occupe des abeilles,
quadragénaire,
qui s'occupe des abeilles et qui a vu le déclin des abeilles et les conséquences directes de la pollution sur ces trucs-là, et elle, ça lui a fait vraiment un truc déclic.
Mais il y a aussi le côté statutaire. Qu'est-ce qui fait que la voiture a toujours...
Et ben justement, ça parle
dans les trucs.
Les Suisses, il y en a un qui disait, bah, moi, je me vois pas acheter une Ferrari, un truc, en fait, si tu renvoies, si l'environnement renvoie des valeurs négatives, et ben ça peut être ça. Et moi, je me suis dit, mais en fait, commute est utile, finalement, puisque...
J'en ai jamais douté.
Non, mais tu vois, le fait de porter un discours... Parce que effectivement, il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent pas se projeter sans voiture. Et nous, le fait qu'on leur porte une parole qui est différente... Alors, on n'a pas les mêmes contextes de vie et on essaie d'être pas trop moralisateur là-dessus, mais on essaie de porter des valeurs qui sont autres. Et du coup, de vous projeter dans une... vous pouvez vous imaginer dans nos chaussures, un peu. Ou en train de pousser sur nos pédales. Et en fait... il y a ça, plus donc il y avait expérimentation de notre manière de vivre, une expérience intense, tant positive que négative. Donc par exemple, il citait quelqu'un qui est parti faire un voyage en Europe en vélo, qui était pas un grand sportif, qui était pas un truc.
Il n'est pas obligé non plus d'en arriver là.
Non, mais tu vois, ça a fait un changement de paradigme de ce truc-là. Mais genre louer des vélos pendant une semaine, tu vois, tu fais la Loire à vélo.
Oui, la Loire par exemple. C'était,
tu vois, et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en gros il y a des gens qui se font un monde de ce que c'est 10 km à vélo. Tant que tu l'as pas fait 10 km à vélo, tu te rends pas compte.
Exactement.
Que 10 km c'est rien, en fait. Enfin, vraiment, et c'est pas un effort de sportif. C'est-à-dire que c'est des trucs où tu te dis, bah ouais, moi je suis pas sportif, donc je fais pas de vélo. Sauf que 10 km, vraiment, c'est des trucs où, enfin, si vous pouvez marcher 20 minutes, vous pouvez le faire. Alors oui, il y a des petits obstacles.
Non, 20 minutes, tu feras pas 10 km en marchant, mais bien tenté quand même.
Non, mais
Par contre, moi je réfléchis, tu vois, depuis que je suis en vélo, effectivement. Alors moi, je rappelle, le vélo, c'est pas parce que je suis bobo écolo massin, je m'en bats les couilles. C'est juste que littéralement,
t'as plus de permis.
Alors déjà j'ai plus de permis, mais en plus c'est le moyen de transport le plus rapide, oui. Tout mode de transport confondu dans Paris, en fait. Maintenant, c'est juste ça, d'une manière strictement pratique, le vélo c'est le plus rapide. Et donc juste, je disais, moi je réfléchis maintenant en bloc de 5 km. C'est-à-dire que je sais que en moyenne je fais 5 km en 12 minutes, donc en fait quand on me dit bah voilà c'est à 15 km, je peux dire ok, bah j'y serai dans 36 minutes, tu vois. Et je réfléchis que comme ça. Et c'est vrai que tu te rends compte que ça te fait faire des distances, des fois, qui peuvent être assez importantes pour quelqu'un qui ne fait pas de vélo, où tu lui dis, bah ouais, tu vois, là, j'ai dit, je suis allé avec ma fille, on a fait 35 bornes aller-retour. Je dis ça à n'importe qui est bagnolard, il va me dire, mais c'était une randonnée, tu vois, alors que non,
c'est juste un trajet aller-retour.
Voilà.
Et ben ça fait partie du cinquième point, qui est le bouleversement des habitudes existantes. C'est que toi, t'as expérimenté le vélo. Enfin, toi, je t'ai vu, t'as un peu testé l'eau au fur et à mesure. Et en fait, t'as goûté au truc et tu t'es dit, ah, ça marche, tu vois. Et toi, c'est un truc, moi, je trouve ça intéressant parce que toi, tu fais partie des gens qui ont changé d'habitude, mais de façon durable. C'est-à-dire vraiment, c'est pas un truc que t'as changé, parce que l'autre truc qui était noté dans les facteurs psychologiques, c'est que le changement d'habitude, c'est entre guillemets quelque chose de le faire pendant un certain temps. Le fait que ça rentre dans une habitude de vie sur le long terme, c'est comme arrêter de fumer, quoi. Si t'arrêtes de fumer 15 jours, mais que tu reprends, parce que c'est une addiction, en fait, finalement, la voiture.
Bah, c'est la praticité, mais en fait, moi, il suffit juste de trade tous les aspects pratiques de la voiture en les rendant, et là, je rejoins Chloé, beaucoup plus chiant pour l'automobiliste.
Mais oui.
Moi, quand je pense à aller à Paris en voiture, je me dis, garer, ça va être un enfer.
Moi, je peux vous assurer que l'hiver, quand je dois prendre mon vélo, qu'il pleut, qu'il fait froid, ça me... j'ai pas du tout envie. Hein, ça me... Mais moi, j'ai pas de... En métro, c'est hyper compliqué de me rendre au travail, c'est chiant. Donc, l'autre alternative, c'est ma voiture. Mais je sais très bien que ça va être l'enfer absolu. Oui, après, c'est-à-dire que je l'ai vécu quelques fois, ouais. Je ne veux pas le revivre en fait. Donc je trouve ça intéressant finalement que ça soit pas, voilà, que ça me dégoûte parce que naturellement je vais pas aller vers ça.
Moi,
alors que je serais au chaud en écoutant musique. Quoi.
J'ai fait l'expérience cet hiver. On en avait parlé. J'ai acheté un pantalon de pluie. Genre franchement, entre un pantalon de pluie arrivé un peu mouillé dans le froid. Mais si t'es bien équipé ou me taper du RER pendant 50 minutes, le choix est fait immédiatement. Quoi. Je prends le vélo tous les jours.
Oui, mais il y a des matins, c'est un peu relou. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que
tu peux le faire une ou deux fois. Tu vois, et si tu lâches ta bagnole au bout d'un moment, t'auras plus le truc. Je rebondis, parce que finalement, ça s'emboîte très très bien, nos deux chroniques. Il parlait. Alors attends.
Tu veux que je parle de Darmanin en attendant ?
Non. Justement, tu disais il faut mettre des bâtons dans les roues sur la voiture. Et en fait, moi, un des trucs qui m'a vraiment surpris dans ce livre, c'est que le déclin et le désamour de la voiture, c'est quelque chose qui a amorcé depuis les années 2000 en Suisse. Mmh. Alors qu'il n'y avait pas spécialement de politique anti-bagnole à ce moment-là. Et l'une des raisons qui a été avancée... Alors tiens, quelle en est la raison pour les jeunes ?
De quoi ?
Du fait que les gens aient pris pas la voiture dans les années 2000, même si ça prenait plus de temps dans les transports en commun.
Alors, aucune idée. Il s'est passé quoi dans les années 2000 ?
Bah, je sais pas. C'était peut-être les subprimes, ça coûtait non. plus cher, j'en sais
non,
rien.
Un truc qui fait que tu prendrais plutôt les transports en commun, c'est plus du positif que du négatif.
Pour lire des livres ? Écouter des podcasts ?
C'est plus la tech.
Ah ouais ?
Justement, il disait que l'avènement du téléphone et des modes connectés, les gens avaient un budget, parce qu'ils appellent ça le budget temps a pu augmenter, parce que du coup, le temps que tu utilisais pour te déplacer, c'était pas du temps perdu. C'est-à-dire que, à la même manière que le temps que tu fais dans les modes actifs, c'est un temps qui est, entre guillemets, rentabilisé, parce que t'as un double usage, c'est que tu te déplaces et tu kiffes.
Ouais.
Là, t'as un truc où, en gros, tu te poses dans le train, tu lis ton bouquin, tu fais tes mails, machin et tout. Et du coup, il parlait d'avoir.
Il rentabilise, en fait,
ton temps de transport.
Mobilisation, ouais.
Et donc plutôt que prendre ta voiture où t'as une demi-heure où tu fais littéralement rien à part être concentré pour te déplacer, là tu prends trois quarts d'heure mais tu fais un truc à côté.
Ouais, c'est vrai.
Et en fait les chiffres ils sont c'est pas négligeable sur les Suisses, que j'avais un chiffre de
il sort ses petits
j'ai des beaux graphiques.
Oh là là,
la possession du permis de conduire chez les 18-24 ans entre 94 et 2010 c'est passé de 70 à 60, en dessous de 60%, alors que si on prend pour la même tranche les 25-44 ans on tutoie les 90%.
Ah ouais.
Tu vois, donc t'as une chute qui est de plus de 20%, voire même 30%.
Donc on irait vers l'avènement du la voiture c'est plus si cool
un
que ça
un truc de vieux. Et alors ça a été recorrélé par des études qui ont été menées par Toyota et un autre grand constructeur, peu importe.
Totalement objectif, du coup.
Non, parce que justement, ça les inquiétait.
Ah.
Ils ont vu que Toyota et un autre grand constructeur, ça devait être peut-être Ford, la voiture, c'était plus cool.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui...
Et c'est là-dessus que je trouve que c'est le shift que j'observe, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de gens, c'est plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus statutaire.
Non, c'est plus un bien positionnel.
Alors que dans les années 80, on t'expliquait que tu étais un homme que si tu avais la dernière...
Alors, ça l'est encore sur les SUV.
Oui, de ouf.
Non, parce que le SUV, ils mettent l'accent pas sur t'es un beau gosse, t'es un SUV, c'est surtout t'es en sécurité, tu vois la route de haut, tu domines les autres.
Ça, c'est ce que les publicitaires te disent, mais en fait, dans les achats, ils se rendent compte qu'en fait, c'est vraiment pour l'image.
Ah oui,
que c'est pas du tout pour l'utilisation, c'est vraiment ça, quoi, encore.
Mais à quel moment c'est statutaire d'avoir un monospace ?
À quel moment c'est statutaire d'avoir une Speedmaster, tu vois, enfin une Rolex, ou enfin, tu vois, il y a un truc où, en fait, à partir du moment où tes pères ont ces codes-là, tu rentres dans tu
non
rentres
parce
dans
que
school,
le côté statutaire d'une grosse berline genre une Mercedes classe E
mais parce
vois,
que toi t'es un peu la fibre enthousiaste du truc tu vois de la belle bagnole non mais parce que enfin tu vois moi c'est pareil un SUV ça m'envoie pas du tout de rêve et je serais plus sur des voitures et moi en plus enfin pour avoir roulé dans les deux aujourd'hui une Mercedes une classe E berline c'est ce qui se fait de mieux en termes de salon roulant enfin à part une Rolls. Genre vraiment, il n'y a aucun intérêt à se mettre 20 cm de haut en plus. Et ça n'a aucun sens. C'est juste ce que tu renvoies.
Et d'ailleurs, j'ai vu un truc passer là-dessus, alors pas forcément sur les SUV, mais ça m'a fait bien rigoler parce que je l'avais jamais vu sous cet angle-là. On achète des voitures de plus en plus grosses.
Ouais.
Et il prenait la métaphore de est-ce que tu achètes un appart avec une chambre en plus parce que tu sais que potentiellement tu vas recevoir des amis à Noël et donc il faut avoir une chambre en plus ?
Non.
Non. Et ben pourquoi tu le fais pour une voiture ?
Et c'est un truc que moi j'arrête pas de dire ça. Je dis, il y a des gens qui achètent des breaks parce qu'une fois par an ils vont surfer.
En vacances, ouais.
Tu vois, et tu te dis, mais ok. Donc c'est comme si effectivement moi j'avais systématiquement avec moi 3 sacs à dos vides.
Juste au cas où.
Parce que de temps en temps, une fois par an, je les remplis, tu vois. Mais du coup, je me balade avec mes sacs à dos sur moi tout le temps.
Ça, en même temps, c'est un trait qui dépasse le truc de la voiture. T'as des gens qui achètent un vélo juste parce que potentiellement, une fois, ils vont acheter un truc de dentiste parce qu'ils vont aller. T'achètes le potentiel, t'achètes les paillettes.
Il y a un truc, c'est que. Je sais plus ce que je voulais dire.
Du coup, je rebondis comme ça, il n'y a pas de blanc. Mais sur la question de la taille des voitures, de toute façon, on arrive à un problème. Puisque les SUV sont beaucoup trop gros pour la ville. Oui. Je raccroche à l'urbanisme.
Ouais,
que maintenant, en plus, les places de stationnement, elles dépassent. Enfin, les SUV dépassent. Donc, du coup, ça crée des problèmes de circulation. Et que je pense que dans l'époque du tout voiture, on aurait agrandi des chaussées. Et que là, je pense qu'il n'y a plus assez d'argent ni d'envie politique.
Oui, on ne va pas réduire les trottoirs pour faire de la place.
De la place aux SUV. Donc, de toute façon, il y a un moment donné, tu achètes ton SUV trop cher pour quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est en plus pas pratique en ville. Donc, je ne sais pas ce que va être l'avenir du SUV pour les gens urbains.
Je fais confiance à l'industrie automobile pour inventer des nouveaux besoins.
Peut-être.
Et bien sûr.
Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant
On rappelle que dans le SUV, tu prends une 2008, c'est le châssis d'une 208.
Ah oui, non, mais alors le pire, c'est les SUV coupés.
Oui.
Genre, tu achètes un Porsche Cayenne coupé, donc tu as un truc qui fait putain de 9 mètres de long. Ça fait 2,5 tonnes et ils te mettent une ligne de toit fuyante pour faire couper. Donc en gros, tu ne peux plus rien foutre dans le coffre. Tu consommes 28 litres au 100. Les gens derrière, ils sont mal installés.
Ils ont le plafond dans la gueule.
Mais en fait, et en plus, parce que dynamiquement, c'est pas des véhicules sportifs. Tu veux acheter une voiture sportive, une berline sportive ? Achète une berline sportive.
Bah, oui.
Mais là, c'est vraiment genre juste, j'ai acheté un SUV et t'as même plus les trucs pratiques. C'est le capitalisme.
Mais non, mais c'est pas le capitalisme, c'est la faute exclusive de l'Allemagne. Ce sont ces gens, ce peuple, qui a décidé de faire croire à 1 milliard de personnes dans le monde que un break c'était un véhicule sportif et que avec ta Audi RS6 qui fait 1,8 tonne, tu vas faire des tours de circuit comme un ouf, alors qu'on sait très bien que ce qu'il faut c'est une voiture de 600 kilos, tu vois.
Oui.
Et que voilà. Et en
light
fait,
is right.
Dans la tête des gens, la voiture, la grosse berline allemande, c'est sportif, alors que pas du tout, putain, c'est de la merde.
Donc après avoir craché sur les Espagnols.
Pardon. Et les Allemands, et les Italiens.
Les Français, ouais.
Mais en plus là, ce qui change un petit peu depuis le tout voiture, c'est qu'il y a d'autres modes de transport qui sont arrivés. Le développement du vélo, le développement des trottinettes, quoi qu'on en pense,
quoi
les scooters,
la
marche à pied. Donc du coup, la ville est obligée
de se transformer. On a des alternatives, bien sûr.
Et c'est là où je fais ma transition sur mon 600e chapitre. Qui est que là, on réfléchit sur le fait qu'on doit adapter la ville à chaque fois aux évolutions du transport et de nos usages. Mais je me suis posé la question, et je vous la poserai également à vous, qu'est-ce qui se passait si vous deviez créer une ville aujourd'hui ?
Ah.
Est-ce que vous mettriez des routes ?
Oui.
Mmh. Ok, pourquoi ?
Parce que moi, étant cycliste, je vous garantis que les sections pavées, quand même, ça casse les couilles.
Ah, donc tu mettrais des pistes cyclables, pas des routes ?
Ah,
route au sens carrossable.
Moi, je mettrais une voie avec un genre de revêtement qui soit pas de la gadoue. Tu vois, pour moi, c'est ça une route. Mais oui, d'accord. Oui, je mettrais. Bah, en fait, moi, je trouve qu'avoir un axe de transport un peu central, une rue.
Hein, oui.
Voilà, ça reste quand même intéressant.
je vais vous parler des projets de gens qui se sont dit on va réinventer la ville.
Mais alors, ils ont fait quoi ?
Et je vous parle pas forcément du futur, je vais commencer par, attendez je remonte dans mes notes, par...
On n'a pas parlé une seule fois d'Amsterdam et je trouve ça incroyable.
Ouais, c'est fou.
Je suis jamais allé, je connais très mal les Pays-Bas,
aussi,
c'est de ma faute, il faudrait que j'y aille. Parce que c'est super bien.
Je vais commencer, je crois, par un Espagnol.
Vas-y. Allez,
par
le tiers
monde.
Vas-y.
Arturo Soria.
Mm-hmm.
Faut que je vérifie si c'est l'Espagnol ou l'Italien. Qui, en fait, au début du 20e, a... idée de créer la cité linéaire.
Oh putain,
on va partir, oui.
On va est-ce que vous connaissez la saoudienne?
Mais ça, c'est les utopies.
Et ben, c'est hyper intéressant de voir qu'à 100 ans près, 120 ans près, c'est un peu c'est la même idée. Alors, la cité linéaire, bon, ça a été un échec, je vous spoil.
Oui, bah, oui.
Mais, la cité, mais j'ai trouvé son principe assez génial, c'est d'avoir une voie unique de 500 mètres de large. Sur une distance, une longueur infinie, hein, vous en faites ce que vous voulez, que de chaque côté de cette voie, du coup, il y ait à la fois des rues et des commerces, mais aussi des jardins, ce qui fait que tu peux profiter à la fois de la ville et des avantages de la ville. Puisque
oh, 500 mètres de large, c'est énorme.
Et au centre, du coup, un transport en commun unique.
Ah, d'accord, ok.
Donc et un peu d'autres. Écolo, voilà, où tu peux te rendre de part et d'autre.
Snowpiercer, mais boulevard des Maréchaux Pierceurs.
Je trouve pas ça con.
Ah ouais.
Bah, c'est vrai que c'est les Maréchaux, en fait.
Et donc, du coup. Tu rebondissais là-dessus. On a ce projet qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle The Line, qui est une ville de 270 km de long, linéaire.
Ouais.
Donc, on verra si ça marche ou pas.
Enfin, eux, ils, sur The Line, en plus...
200 mètres de large,
de
c'est un peu plus petit.
Partager l'espace linéaire, il y a aussi une notion de strate.
Oui.
Où les gens qui habitent au dernier étage, ils n'ont pas besoin d'aller au niveau du sol parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils restent chez eux.
Exactement, c'est le quartier du 5 minutes distance, ce qu'ils appellent. Et que sur les 170 km de long, ils te promettent que tu puisses aller d'un bout à l'autre de la ville en 20 minutes. Donc tu as un TGV sous terre, en fait.
Quel enfer.
Bon, après, je ne comprends pas très bien comment ils ont calculé ça parce qu'il faut que tu puisses faire des petits arrêts au milieu, donc tu n'es pas à 300 km/h tout le temps. Mais écoutez, pourquoi pas,
Elon Musk.
Peut-être d'autres petits TGV, je ne sais pas. Moi, mon souci dans toutes ces idées-là, c'est qu'il faut les relier aux autres villes, ces villes.
Ouais.
Ce qui fait qu'à un moment donné, tu as un aéroport ou un truc comme ça. Donc, ce qui fait qu'on revient toujours au problème de... Il y a des axes routiers ou des hubs de transport qui font que,
que
naturellement, ta population elle doit aller là-bas.
Non, mais parce qu'effectivement, dans toutes ces utopies de villes linéaires, machin, etc., on ne positionne pas la question des industries.
Ouais.
Et pour vivre, moi, donc, dans une ville superbe, hein, Maison Alfort, qui, en son centre-ville, a toujours une usine, je vous garantis que quand on reçoit des messages d'alerte qui nous disent que les enfants ne viendront pas à l'école demain parce que l'usine de levure a une fuite d'ammoniac, on n'est pas yimbe, tu vois.
Bah oui.
Et donc le problème, il est là, c'est que à force de, enfin, on pense à la ville que sur le côté habitation, mais est-ce que vous seriez prêt au nom d'une décarbonisation totale et de la disparition de la voiture d'avoir à côté de chez vous un incinérateur d'ordures?
Alors non, mais j'ai 15 minutes pour te faire le résumé du bouquin et t'expliquer. Non, ça va le faire.
Non, mais justement, je voudrais répondre vraiment sur cette traitement des déchets. Je vais vous parler
Des déchets ou industrie lourde.
Oui. Je vais vous parler d'une autre, une autre ville. Bon, c'est encore. Alors, je vous ai dit, c'était en Arabie Saoudite. Non, je vais vous parler de Masdar City.
Oui, c'était en Arabie Saoudite.
Non, c'est aux Émirats Arabes Unis.
Oui, c'est pareil.
Voilà.
Masdar City. Non, mais on est plus à ça après.
Non, mais là, c'est pas The Line. Masdar City, c'est un autre système où ils construisent une ville from scratch et sans aucun transport, sans aucune voiture, où du coup, tu as des transports en commun, mais tu as surtout un système souterrain de transport où là, ça s'apparente pas à du métro, à du tram, c'est des mini-pods individuels ou qui peuvent contenir jusqu'à 10 personnes, qui sont tous reliés par les technologies qui savent que si tu l'appelles et que tu dois aller à cet endroit, ils vont calculer le meilleur itinéraire pour y aller. Qui servent du coup pour tes déplacements personnels, pour les déplacements du boulot et pour le fret et l'évacuation des déchets de la ville. Et je trouve pas ça bête.
C'est le LAMU, mais.
Oui, c'est le LAMU. Ouais.
Et du coup, moi, ma dernière, je me suis dit. Le problème, comme je vous dis, c'est de toujours relier les villes entre elles. Parce que tu peux vivre dans ta ville, avoir 15 minutes, mais qu'est-ce que tu fais si tu veux aller visiter Barcelone ou d'autres choses?
Ou le tiers-monde, n'importe quel autre pays.
Je vais te prêter le bouquin.
Est-ce que le futur, ça ne serait pas que la ville elle-même soit mobile?
Eh ben voilà. Et là, on revient dans le 404 d'il y a 8000 ans.
Alors,
c'est ce qu'on expliquait. Donc, la ville se déplace.
Bah ouais.
Ouais. Non, consommation d'énergie
énorme. Complètement con, mais ok.
Non, mais j'ai écouté un podcast sur des naufragés. Il faut absolument que vous écoutiez ce podcast. Où en fait, à un moment donné, ils sont coincés sur un iceberg. Et ils n'ont pas trop moyen de se déplacer. Et donc, du coup, ils se disent
on va déplacer l'iceberg.
Non, ils se disent on va attendre parce qu'il tourne, il y a des courants et il faut qu'on aille là-bas et que de toute façon, il va y arriver à un moment donné. Donc, nous, on va rester immobile et on va bouger avec la plateforme sur laquelle on est.
Ils sont morts ?
Non.
D'accord.
Pas tous.
Ok.
Bah, du coup, moi, je vais essayer d'un peu broder sur les conclusions du livre que je te prêterai parce qu'il y a vraiment des trucs qui vont t'intéresser là-dedans. Le bouquin travaille sur le concept du palimpseste, donc j'ai expliqué en intro. Le palimpseste,
non,
c'est
tu l'as
un...
pas expliqué du tout.
Tu l'as expliqué en avant, off.
Tu l'as expliqué off, pardon. Le palimpseste, c'est un parchemin sur lequel vous avez gratté pour pouvoir réécrire dessus. Et ils partent du fait que la ville, par exemple, c'est un parchemin où en fait on peut effacer des bâtiments, mais il y a toujours un peu des traces du passé. Et moi, ce qui me dérange avec les exemples que tu as postés et quand on parle de SimCity, c'est qu'on parle de trucs qui sont from scratch, donc de zéro, et que la vie des gens et le tissu économico d'habitation, ça ne part pas de zéro. Donc, le bouquin dont j'ai parlé, ils ont fait un diagnostic très complet sur les dynamiques socio-éco-démographiques entre Lausanne et Genève et tout le gradient de campagne qu'il y avait entre les deux pour créer, enfin pour en gros
c'est entre Lausanne et Genève.
Ouais, voilà, Genève.
Genève.
Pour en gros voir des trajectoires et imaginer un peu les villes, enfin ces villes-là sans voiture. Et ils ont dit, comme quand la voiture est arrivée, elle a effacé et muté des espaces, parce qu'en gros, une voiture, enfin quand les voitures sont arrivées, bah, ils ont durcifié certaines routes, là où avant c'était des routes en terre pour. Bah, en gros, ils ont asphalté,
goudronné
les routes.
C'est pas mal goudronné, ça va.
Et transformé certains bâtiments en bon parking, en commerce de pneus, garage, machin. Donc il y a eu une mutation de l'espace, plus qui est. Plus autour des routes que des routes elles-mêmes. Là, comment on fait si on inverse ce truc-là, qu'on retire les voitures, comment on organise les villes entre elles et qu'est-ce qu'on fait de l'espace qu'on a libéré.
Donc, c'est marrant de voir ça parce que juste je te micro-coupe avec une anecdote intéressante. C'est qu'on prend souvent, du coup, en tant que cycliste, l'exemple d'Amsterdam, qui est une ville, et en général, les défenseurs du tout voiture vont te dire « Bah oui, mais n'importez pas des variables que nous n'avons pas en France. Amsterdam est une ville construite pour le vélo, ça date d'il y a 2500 ans, comme à chaque fois ils font. » Et en fait, il y a plein de photos maintenant qui montrent Amsterdam dans les années 70, et c'était exactement Paris, Centre Pompidou, c'était le bordel. Quoi.
Surtout qu'ils ont été intelligents, parce que c'est arrivé au choc pétrolier, où ils ont dit « Bah, on va arrêter de dépenser des sous pour la voiture. »
Changement d'habitude radical. Ah, tu vois, ça vient des 5 points.
Pour moi, c'est
de
la logique économique. Si tu parles aux gens en leur disant « Ça va te coûter moins cher. »
Bah oui, ils vont le faire.
Bah oui.
Donc, ils ont conceptualisé 3 idéotypes pour l'avenir de la mobilité. Donc, le premier étant la grande mobilité généralisée. Donc ça, en gros, c'est tu te déplaces beaucoup entre différents grands pôles. C'est-à-dire que tu as un réseau de grandes villes qui sont denses avec des aménités. En gros, tu te déplaces en TGV très très rapidement entre les deux et tu as des déplacements quotidiens intenses. C'est-à-dire que, admettons, tu travailles à Paris.
Pour aller travailler.
C'est ça, tu travailles à Paris, tu habites à Bordeaux ou tu travailles à Lyon et tu habites à Marseille. Et en gros, tu as des déplacements qui sont intenses tout le temps. Tu choisis ton lieu de métier, enfin ton lieu de vie. Et ton métier, peu importe. Parce que ça aussi, ils ont fait le constat dans la Suisse, et qui est un truc qui m'a, moi, vachement surpris, parce que ça allait contre ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en gros, ils ont observé que les emplois se mettaient en général au bord des axes routiers qui sont très contraints, parce que là, on parle de villes qui sont entre le lac et les montagnes. Et ils se sont dit, bon bah voilà, les gens vont choisir leur lieu de vie en fonction de leur emploi. Et en fait, non, les emplois sont situés à proximité des grands axes. Par contre, ça n'avait aucune corrélation avec le choix résidentiel des gens. Les gens, ils vivent où ils vivent et ensuite ils trouvent du taf à côté. Ce qui pour moi était pas du tout évident. Pour moi, en gros, mon lieu de vie, c'est c'est déterminé par tes conditions économiques. Tu te mets là où tu peux en fonction de proche de ton travail.
Non, faut jamais faire ça, malheureux.
Non, mais tu vois, mais moi, c'était ma conception.
Non, mais ça veut dire que ta vie est tournée autour de ton travail.
Quoi. Bien sûr.
Bah, du moins, ouais. Mais regarde, les gens en général, quand ils déménagent et tout, ils déménagent quand ils changent de métier. Ils font pas l'inverse.
Oui, mais là, justement, ce qui est intéressant dans la question de la ville, c'est que t'as une.
Ouais, mais là, tu vois, il parle de bassin complet. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est ville ou campagne proche. Tu peux être. C'est pas déterministe.
D'accord.
Le deuxième idéal type, donc après la grande mobilité entre les trucs, c'est l'ère de la communication. Donc en gros, ils considèrent que l'intensité des déplacements d'avant, c'est une période de transition, parce qu'on l'a vu avec le Covid, là maintenant, t'as plus besoin forcément de trop te déplacer, à part si t'es la MUA et que tu veux vraiment pas travailler dans ton salon et que tu vas ailleurs.
Sinon, on fait des zooms.
C'est ça. Mais là, t'as quand même.
Moi, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, et c'est là que je me rends compte de le bilan carbone désastreux qu'on a tous. Hein, c'est que moi, ça m'est arrivé de faire des 2 jours à Hong Kong. C'est-à-dire que je traverse la moitié du globe pour passer deux jours sur place et revenir.
J'aime bien comme tu fais ça d'une généralité de la plupart des gens.
Bah, mais... c'est ce qu'on fait tous.
Bah non.
Ok. Alors, dans les gens qui avaient des métiers avec des responsabilités, okay. Il se trouvait qu'effectivement, on était capable de prendre l'avion pour passer 27 minutes à Caracas, tu vois, ce qui est quand même, là j'y pense, j'y pensais récemment et je me disais quand même quelle connerie, on aurait pu tout faire en visio, mais ouais. Bon, voilà.
Bah, donc du coup, cette ère-là, elle dit que voilà, on va sensiblement diminuer ces déplacements-là, il va y avoir beaucoup moins d'heures de pointe, parce que, en gros, ça va se lisser au fur et à mesure, mais là, ça prend le...
Donc là, on a une société majoritairement
tertiaire.
Donc là, on a l'hypermobilité et la communication.
C'est ça.
Donc là, pour l'instant, on est à Reims, hein, en gros, ce que tu es en train
voilà.
de dire.
Voilà. Et le troisième idéal type qui, moi, m'a vachement parlé, c'est la vie quotidienne de proximité connectée. Et alors, toi, ça, je suis sûr que tu vas kiffer. C'est en gros changer les aménagements pour faire en sorte qu'au quotidien, tu aies des unités de quartier, donc toi, centré autour du PMU, parce que ça a été ton,
bien
ton
sûr.
Truc. Mais faire en sorte.
Du kebab, oui.
Et du poulailler qui fait la même chose.
Faire en sorte qu'en gros,
tu es sponsorisé par le poulailler.
Plus petites unités de mobilité et d'habitation. Et en fait, là, on se retrouve avec un gradient. En gros, tu peux choisir ce que tu veux, c'est-à-dire que soit t'habites en ville et dans ces cas-là t'as un truc qui est plutôt centralisé et en gros autour de toi t'as un quart d'heure mais t'habites dans un habitat collectif, t'as des aménités urbaines, ou alors tu fais la même chose mais en campagne proche, c'est-à-dire qu'on te prend un petit bourg et autour de grands centres de transport en commun, tu fais un quart d'heure avec une école, du commerce de proximité.
Oui,
là,
on revient
en gros,
au Cité-Jardin.
C'est ça, mais à beaucoup plus petite échelle.
Qui est un peu le principe de Londres aussi.
Ouais.
Londres, il y a eu énormément de quartiers résidentiels créés qui a pu s'ouvrir, contrairement à Paris, avec quand même des commerces de proximité de base et avec quand même des axes te permettant de rejoindre rapidement.
Ils ont l'équivalent du périphérique à Londres, l'Orbital, tu vois. C'est...
Oui, mais la ville est beaucoup plus...
Elle est plus étendue.
Oui.
Oui. Et c'est plein de villes qui sont fédérées sous une bannière commune.
C'est ça,
et
il y a beaucoup moins la notion de t'es pauvre, donc tu vas en banlieue, mais t'as pas les avantages de...
Il y a un peu ça quand même.
Ok.
Mais en fait, non, Londres, c'est juste qu'ils ont triché sur le truc. C'est, en fait, Londres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont toute la banlieue, ils l'ont nommé Londres.
Ouais, The Great London. Ouais. Et puis, ouais.
Oui, mais...
C'est comme si Paris, c'était la petite couronne plus Paris.
Et ben, typiquement, c'est ça qu'on disait tout à l'heure dans les changements des usages. Ça peut être ça aussi. Ça peut être de dire Paris.
Bah, il y a le grand Paris.
Mais non, mais juste Paris.
Mais ouais.
Et comme ça, du coup, ça tu serais content d'habiter à Paris.
Ouais, le 47e arrondissement.
Mais justement, là, ce qu'ils proposent sur la métropole de l'arc lémanique, c'est justement de ne pas faire une uniformisation de ce truc-là et d'appeler ça d'un seul nom et de faire qu'un seul truc. Ils ont appliqué avec des étudiants du master d'architecture de l'EPFL un truc que je trouve hyper intéressant, c'est qu'ils ont réfléchi en bandes de 3,5 km. Donc en gros, vous imaginez, vous êtes entre une montagne et un lac. Donc en fait, vous avez une sorte de banane entre Lausanne et Genève. Et en gros, ils ont coupé des petites tranches comme ça. Et pourquoi 3,5 km ? Parce que c'est un arrêt de bus moyen de banlieue régionale, en gros. Et ils se sont dit...
C'est beaucoup déjà, 3,5
km. 3,5
km, c'est
énorme. 3,5 km... pour de la campagne.
Pour du car express.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est du car express. Mmh. Et donc, en gros, ils se sont dit, voilà, on va faire des unités de vie tous les 3,5 km et on va analyser les spécificités de ces 3,5 km-là. Donc, les trucs de loisirs, remettre du commerce, vraiment analyser le tissu de ces trucs-là et faire en sorte que tu aies des îlots de vie où tu n'aies pas besoin d'être forcément orienté vers la ville. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des trucs qui s'autoportent entre les deux grandes villes et qu'en gros, avec un système de transport en commun beaucoup plus light, parce qu'en fait, là où c'est compliqué et là où ça commence à être dur à appliquer, c'est qu'en gros, tout le monde se déplace tout le temps, il faut que tu aies des infrastructures de transport en commun hyper musclées. Et que c'est là aussi, ou pourquoi dans Paris, le RER A, c'est un truc de dingue, la quantité de gens qu'on transporte, parce que tu as beaucoup de gens qui doivent se déplacer dans un laps de temps très court, qui est ton heure pour aller bosser le matin. Et là, si tu fais en sorte de rendre des unités de vie qui sont plus courtes, bah, tu décharges les transports en commun, parce qu'en fait, tu auras tes mouvements où tu dois faire de la longue distance, bah, c'est des trucs le week-end, tu vois, c'est des trucs pour tes déplacements de loisirs, c'est pour aller voir la famille, c'est pour machin. Mais en gros, ton quotidien de semaine, tu peux le vivre à ton échelle de communauté. Et moi, je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est une solution qui est pratique. Parce que c'est pas un truc, c'est pas The Line au milieu du désert, tu vois. C'est de dire, on va refaire des villages avec des trucs où on va consulter les habitants, on va faire des solutions d'habitation qui leur convient à eux et pas juste un truc vertical et technocratique en disant l'aménagement du territoire, c'est comme ça. Là, justement, ils mettaient vraiment l'accent sur la consultation. C'est
donc,
dire...
tu veux dire qu'il faudrait que ça soit une volonté des politiques de mettre des sous là-dedans.
Ouais, mais en fait, tu vas voir les gens, donc, tu dis, bon, voilà, qu'est-ce que vous aimez dans votre campagne? Et tu dis, bon bah voilà, si demain tu peux ne pas travailler, et justement, ils respectent aussi les agriculteurs qui ont besoin de se déplacer avec des véhicules, les artisans, et en gros, eux, tu leur laisses de la place, en gros, tu décharges l'espace de gens qui n'ont pas besoin de se déplacer, donc tous les tertiaires, i.e., 70% de la population aujourd'hui, hein, donc, parce que tu vois, ça aussi, c'est un argument parade de dire, bon bah voilà, parce qu'il y a 30, imaginons même moins, tu vois. Tu prends 50% de la population qui ne peut pas se passer de sa voiture et 50% de population qui peut s'en passer. Si tu décharges ce truc-là, que tu laisses les autres, que tu leur proposes des solutions de transport en commun qui sont plus intéressantes, mieux calibrées, moins chères. Et justement, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, en retirant la voiture, le fait que tu aies des transports en commun qui soient utilisés de façon plus lisse mais plus massive, t'auras plus de budget, en fait, puisque les sous que tu mets plus dans la voiture et dans le véhicule individuel, bah, tu vas pouvoir le remettre dans le financement d'aménagement et de transport en commun. Et je trouvais ça vachement intéressant parce qu'ils ont une approche qui est hyper pratique. C'est pas de
en fait,
la réflexion
dommage, en quel dommage que ce formidable livre, hein, qui apparemment donc, a bouleversé Victor, utilise la Suisse comme exemple.
Ben non, mais du coup, ils ont quand même essayé d'avoir des réflexions qui sont généralisables.
On est d'accord, c'est le principe du quartier de 15 minutes.
En gros, ils ont appliqué, en fait,
que tu reviennes à un truc très basique des villes du Moyen-Âge où tu privilégies le commerce, le voisinage et le truc près de toi.
Tu vois, genre, les solutions qu'ils mettent en place, c'est pas un truc qui est suisse-au-suisse, quoi. Genre vraiment faire des unités urbaines
vous ignorez malheureusement une des variables les plus importantes, c'est les gens eux-mêmes. Parce que là, on part du principe que tous les gens sont tournés ensemble vers un avenir commun et que tout le monde regarde dans la même direction. On sait que dans la vraie vie, on va te dire non, ton bus super pratique, il passe pas devant chez moi, d'accord? Parce que chez moi, c'est chez moi et j'ai pas envie d'avoir un bus qui passe régulièrement. Ok, donc il va faire le tour. Puis après, t'as le mec qui te dit, ouais, ben moi, il fera pas le tour par là non plus parce que ça va pas aller.
Moi, justement, là, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, on a une méthode qui est de dire, faites un diagnostic, connaissez vos territoires, comprenez les dynamiques, et ensuite faites des solutions adaptées.
Mais ça, c'est la méthode utopique, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu commences à prendre...
C'est pas la méthode utopique, parce que tu regardes les trucs, il y a des...
Regarde aujourd'hui, sur les règles d'urbanisme qu'on a, par exemple, en région parisienne, on est supposé avoir 25% du parc immobilier qui est des HLM.
Oui.
Bon, maintenant, si on fait un petit sondage rapide de Paris et sa petite couronne... On n'arrivera pas à une équité totale sur toutes les villes.
Non, c'est clair. Mais voilà, rien que ça.
Et ça, c'est pas la faute des politiques. Les politiques, ils ont mis les lois en place. C'est la faute des gens qui font pression auprès de leurs représentants locaux.
Oui, on veut pas.
Bah, bien sûr.
Après, ils payent des pénalités. Il y a des mécanismes de péréquation.
Non. Si les mecs à Levallois ou à Neuilly-sur-Seine, ils font pas ça, c'est pas parce que les maires ont décidé de pas le faire. C'est parce qu'ils ont dit, si moi je le fais, tous les connards qui sont mes administrés, là, ils voteront pas pour moi la prochaine fois.
Donc, c'est la faute du politique.
Bah oui, mais c'est la faute aussi des gens. C'est que les gens de base ne veulent pas de HLM
mais
chez eux.
En fait, c'est comme si tu... L'exemple du quartier piéton. C'est comme si tu disais, ah bah les commerçants veulent pas, donc on le fait pas. Non, c'est là où je te dis, c'est la faute du politique. Le politique, à un moment donné, prend des décisions basées sur des études, comme tu es en train
de dire. Oui, mais attends,
son
mandat, il dure que 6 ans.
Ouais,
hein,
et, bah voilà.
Et après,
non,
on peut le voir dans la transformation des villes, qu'à un moment donné, c'est aussi une volonté politique. Je pense que Amsterdam, quand ça a été transformé dans les années 70, tout le monde était contre. Je pense que s'ils avaient fait des sondages en disant, les administrés, est-ce que vous voulez? Non.
Contre-exemple, Paris, les gens sont super contents et on va lui donner.
Mais personne n'était pour au départ.
Moi, je vois beaucoup de saccage Paris, excusez-moi.
Bien sûr.
C'est des gens qui habitent pas Paris.
Et que du coup, pour moi, c'est pour ça que l'urbanisme et la mobilité sont vraiment très fortement politisés. C'est-à-dire que c'est une décision qui va transformer la vie des gens.
Là, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le maire qui ne veut pas de HLM chez lui ou est-ce que c'est les gens qui n'en veulent pas, donc le maire dit que...
Reprenons sur la mobilité. Pour moi, à un moment donné, quand tu décides de faire un quartier piéton ou de développer, de mettre des sous plutôt sur les pistes cyclables que le développement des chaussées, c'est une volonté politique.
Oui,
et que les gens vont devoir faire avec, et c'est le principe de l'usage. Si tu mets si tu fais une route en angle droit plutôt que tout droite, eh ben, ta voiture, elle va aller moins vite. Donc, c'est aussi une volonté.
Ou alors, ils vont apprendre à déraper.
Non, mais je pense que tu touches un truc qui est très juste. Et,
et en plus, on touche à la fin.
Oui, ouais. Parce qu'il est 21h30.
Voilà. Non, mais moi, je pense que ça doit être un truc qui est un tout. C'est-à-dire que c'est accompagné avec les acteurs politiques, économiques, les constituants des quartiers. Il y a un truc qui doit se mener pas dans la verticalité de la pratique de la démocratie qu'on a actuellement.
Oui, voilà. Mais sauf que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, c'est que si tu présentes ça sous forme intelligente à tes administrés, tu leur dis ça va vous faire gagner une tonne de fric et du temps, avec tout cet argent en plus, on va développer une école, machin, hop, bingo banco. Élisez-moi.
Moi, je suis sûr que non. Mais okay.
Moi, je pense que il y a moyen que ça prenne dans certains villages. T'expliques aux vieux qui vont avoir nouveau une école, des jeunes parents, des machins.
Il y a rien à expliquer aux vieux.
Oui.
Non, pour de vrai, t'es trop noir dans l'âme.
Oui, mais pas que dans l'âme. Dans mon régime totalitaire personnel, pour moi, une fois que t'es à la retraite, t'as plus le droit de vote. Comme ça, c'est réglé.
C'est vrai.
Voilà, t'es une charge pour la société. Donc en plus, on va pas te demander de choisir des trucs que de toute façon, tu seras mort avant que ça soit mis en œuvre. Voilà.
Je suis assez d'accord.
Bien sûr.
Allez. Faisons un programme commun.
Mais bien sûr. Ça serait un peu totalitaire, mais quand même pipou, tu vois.
Oui.
Toutes ces minutes de propos nuancés pour finir.
Pour finir par un truc totalement arbitraire
mais
et totalitaire.
Mais c'est bien, on a le droit.
C'est aussi pour ça qu'on écoute Commute. C'était une belle émission. Moi, je pense que ça mériterait de faire une suite.
Ouais.
On y reviendra. On fera une série handicap.
Et pourquoi parce que j'ai commencé seulement à lire la page Wikipédia de l'histoire de la route, qui est passionnante, j'ai envie de vous en parler.
Mais grave, je t'enverrai des trucs à dire. Ça, je vais dépoussiérer mes manuels.
Eh bien, on se recadrera, non, on se replanifiera, ouais, une émission complémentaire. Mm-hmm. C'est un plaisir de participer. Comme
merci beaucoup d'être venu
à votre émission de jongleur et de cracheur de feu. C'est vraiment toujours un bonheur de discuter mobilité avec des gens déconnectés. le mois prochain, je pense qu'on retrouvera Ken Bogart.
Bah normalement.
Voilà.
Oh, il sera encore jetlagué
autour de cette table. Moi, s'il y a un slot qui se libère, je me grefferai bien.
T'es le bienvenu.
Ouais, et surtout, il faut vraiment dire aux gens qui nous écoutent, déjà, dites-nous quand on se plante, il n'y a pas de souci, mais surtout, donner des idées de thématiques.
Est-ce que vous avez changé vos habitudes?
Déjà,
on est content commute. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, est-ce que vous êtes mis au vélo? Est-ce que vous allez lâcher votre voiture? Dites-le nous.
Ou est-ce que vous êtes intéressé par l'éventualité de?
Si vous êtes bloqué, dites-nous pourquoi. Si vous l'avez fait, dites-nous pourquoi.
Voilà, n'hésitez pas.
Forum
évidemment,
de qualité, Discord,
oui,
section
Discord
forum.
De qualité, section forum, bien sûr.
Ouais, ou tweet,
Twitter, hein. Tout simplement.
Twitter, Instagram, pas, voilà. Les réseaux, la cloche.
N'hésitez pas
pouce bleu.
À alpaguer tout le monde sur les différents réseaux où il se trouve. Merci Victor, merci Chloé.
Merci à toi
pour votre travail. Mais de rien, j'adore être Ken. Merci Louis à la Réal.
Ouais, merci Louis.
Au montage, ça sera sûrement Ghislain. Merci Lia qui m'accompagne, telle une petite ombre dans toutes mes émissions depuis cette semaine. Vivement la rentrée scolaire.
Elle a été absolument sage.
JPP.
Mais non, elle a été adorable.
J'en ai marre d'avoir ma fille avec moi tout le temps.
C'est pas vrai.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain.
Ciao, bye bye.
Ciao.